Merci frère, laissez-la chanter. Courbons la tête maintenant. Notre Père céleste, nous te remercions ce matin pour ta bonté et ta miséricorde, de nous avoir donné le privilège de nous réunir ici de nouveau. Une journée de ce côté-ci de la grande éternité pour adorer le bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'il est venu sur terre pour nous racheter d'une vie de péché et pour nous donner ce grand héritage que nous avons par sa justice. Et comme nous sommes ici ce matin, en tant que ses ambassadeurs, pour rompre ce pain de vie pour cette assemblée qui attend, puisse le Saint-Esprit inspirer chaque parole et la placer dans le cœur des gens, exactement selon nos besoins. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je considère certainement ceci comme un grand privilège, encore une fois ce matin, de me tenir ici avec vous. Je suis désolé que nous n'ayons pas plus d'espace disponible pour tout le monde. Notre tabernacle n'est pas tout à fait assez grand. Et nous sommes très reconnaissants d'être ici pendant ces vacances. Nous sommes venus de chez nous à Tucson, et le temps était plutôt mauvais, mais nous étions heureux d'être ici et d'avoir la réunion. Maintenant, je veux annoncer que ce soir, il y aura un service de guérison où nous prierons pour les malades. Et je l'ai dit à Billy à l'instant. Il a dit, « Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit, « Eh bien, tu ferais peut-être mieux de distribuer des cartes ce soir, vers 18h30, pour que les gens ne soient pas... » Et voyez, c'est tellement bondé ici, afin de pouvoir savoir comment les faire venir, un à un. Vous pouvez être appelé par le numéro de votre carte, et alors il n'y aura pas de congestion. Nous pouvons simplement les appeler, un à un, les laisser passer dans la ligne, alors que nous prions pour eux. Ainsi, vous, si vous êtes malade, ou si vous avez des bien-aimés qui sont malades, et que vous voulez les amener, venez vers 18h30, quelque chose comme ça, 19h, pour obtenir une carte de prière. Il sera à la porte, ou quelle que soit la façon dont il les distribue, quand vous entrez. Et là, ce sera probablement la dernière fois que je serai ici, avant un certain temps, parce que j'ai un horaire très chargé maintenant. Là, et toujours aux États-Unis, jusque vers la fin du printemps. Donc nous pourrons peut-être revenir un peu plus tard cet été. Si le Seigneur le veut, j'aimerais bien, si nous obtenons l'endroit ici, s'il est climatisé, j'allais demander à Billy. J'aimerais parler de ces 7 trompettes, avoir une série de réunions ici pour les 7 trompettes, si le Seigneur le veut. Car cela, les 7 âges de l'Église, et les 7 sceaux, et maintenant les 7 trompettes. Et nous pourrions choisir un moment, peut-être en juin, où les gens ont leurs vacances. Ça leur donnerait du temps pour qu'ils puissent venir. Et je suis heureux de voir frère Shepherd ici ce matin, qui sort de l'hôpital. Je suis allé le voir l'autre jour. Et sœur Shepherd, je n'ai pas pu vous appeler hier. Ce rêve que vous m'avez envoyé était très, très bien. Vous avez vu comme c'était Christ dans les cieux, sur ce cheval blanc. Mais pourtant, il était lié. Vous voyez? Mais malgré tout, avant qu'il ne disparaisse, toute votre famille a pu le voir. Voilà l'interprétation du rêve. C'est que votre famille a vu son mouvement dans ces derniers jours, avant que cela soit terminé. Ce que c'était, alors c'était très spirituel, une merveilleuse bénédiction pour vous, pour votre famille. Cette famille est passée par de grandes tribulations pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Et maintenant, nous avons quelque chose d'un peu triste ce matin. Depuis que j'ai été ici, un de nos précieux amis et qui vient à ce tabernacle, la famille Coates, que nous aimons tous. Ils viennent de l'Est ou des environs de Chicago. Et sœur Billy Habib et sa sœur Armstrong et toutes les filles, je pense qu'ils étaient autrefois nazaréens. Ils sont venus au Seigneur et ce sont de nos très précieux amis. Et frère et sœur Coates, Leur père et leur mère étaient sur le chemin du retour l'autre jour, en provenance de l'ouest, et quelqu'un a glissé sur la route et a tué Sir Coates, sur le coup. Et quand ils m'ont appelé là-bas à Tucson, que j'en ai entendu parler, j'étais assis juste là, avec une boîte de bonbons qu'elle venait de préparer pour moi, là, sur la table. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment je me suis senti. Mais je pense que je remercie le Seigneur ce matin. Elle n'a pas eu à souffrir. Elle se faisait vieille, elle n'a pas eu à souffrir. Et elle est rentrée à la maison pour être avec Dieu. Je pensais à ça et je parlais à ces deux filles à l'instant, là, dans la pièce. Frère Coates est ici ce matin, il a quelques côtes cassées. Et je l'ai appelé à l'hôpital où il était hospitalisé, là-bas, dans le Missouri. Et ses côtes sont cassées et tout, mais il a certainement fait preuve de courage. Un véritable chrétien, sachant que sa petite reine n'est pas morte, qu'elle vit à jamais avec Christ, et il y aura un temps d'union. Job a dit une fois, « Oh, si tu voulais me cacher dans la tombe et me garder dans le lieu secret, jusqu'à ce que ta colère soit passée. » Avez-vous déjà remarqué que Dieu, dans la nature, fait la même chose? Comme la sève qui est dans les arbres là-bas, qui retient les feuilles. Et avant que l'hiver arrive, la colère qui est déversée sur la terre. Voyez, à une époque, la terre n'avait pas d'hiver. Et dans le millénium, il n'y aura plus jamais d'hiver. Vous voyez? Donc, c'est la colère sur la terre. Et quand cela s'est produit, voyez, avant que la colère ne vienne, Dieu, dans sa miséricorde, envoie cette sève directement dans le, sous la terre, dans les racines de cet arbre. Et la garde là jusqu'à ce que la colère de l'hiver soit passée, puis la fait remonter à nouveau, voyez, au printemps. Oh, si tu voulais me cacher dans la tombe et me garder dans le lieu secret jusqu'à ce que ta colère soit passée. C'est ce qu'il a fait pour notre sœur. C'est ce qu'il fait pour tous les chrétiens. Frère Coates, que Dieu te bénisse. Je suis si heureux de savoir que le sceau de Dieu tient à l'heure de la détresse. Je sais ce qu'il traverse, parce que j'ai vécu quelque chose de semblable il y a des années. Mais je suis, un par un, nous devons traverser cette grande rivière. Ce sera mon tour, un de ces jours, et votre tour, un de ces jours. Mais comme David l'a dit, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Maintenant, en commémoration de Sir Coates, notre précieuse sœur qui est allée vers Dieu, en guise de petite commémoration pour elle, ce matin, je veux que l'Assemblée se lève un instant. Courbons la tête et pensons à celle qui, il y a quelques jours, est entrée dans ce tabernacle. Allons et venons parmi nous, nous serrant la main, une chrétienne charmante, qui est maintenant à cet endroit que le Seigneur m'a laissé voir il n'y a pas longtemps, une jeune femme à nouveau, qui attend sa famille qui viendra. Notre Père Céleste, nous te remercions pour les souvenirs que nous avons de Sir Coates. Quelle bien-aimée et précieuse sœur! Or, viendra le moment où, lorsque notre durée de vie sera écoulée, le temps qui nous a été alloué, nous devrons traverser la rivière. Nous te remercions parce qu'elle n'a pas eu à souffrir. Il ne devait rien y avoir contre elle ici, car elle n'a pas eu à souffrir. Elle est allée directement dans les bras de Dieu en un instant. Son mari, ses enfants sont ici ce matin, Seigneur, revenant à leur poste de devoir. Combien nous te remercions pour cette foi vaillante. La foi de nos pères est toujours vivante au lieu des cachots, des flammes et de l'épée. Nous te remercions pour toutes ces choses. Accorde le repos à sa précieuse âme, Seigneur. Elle était notre sœur. Du chagrin, des larmes tombent dans notre cœur à cause de son absence. Mais la joie jaillit de ses larmes. Laisse-nous savoir, avec l'assurance de ta parole, qu'elle continue de vivre dans une vie immortelle qui ne pourra jamais mourir. Et il n'y aura jamais d'accident à l'endroit où elle se trouve maintenant. Elle n'attend que ceux qui vont par la suite venir se joindre à elle. Bénis, frère Coates, et bénis ses filles et sa famille, Seigneur, et ses bien-aimés, et tous ceux qui l'aiment. Et un jour, Père, nous avons confiance de la rencontrer là-haut, dans ce grand au-delà, où il n'y a pas de maladie, pas de chagrin, pas de mort. D'ici là, garde-nous tous en parfaite santé, à ton service et dans l'attente de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Que le grand Saint-Esprit qui traite avec nous ici au tabernacle, en révélant sa parole, qu'il donne le repos à son âme valeureuse jusqu'à ce que nous la revoyions. Maintenant, il fait chaud ici ce matin à cause de nos corps, vous savez. Une bonne partie vient de la chaleur corporelle. Bon, nous aimerions faire une annonce ici. Parfois, nous réunions ici, puisqu'elles sont longues le matin. La raison, c'est que ce n'est vraiment pas bien d'avoir une réunion aussi longue, parce que une heure et demie, ou parfois deux heures. Mais ce que je fais, j'enregistre ici à l'arrière, voyez, et cette bande va dans le monde entier. Et c'est ce que nous nous réunissons si longtemps le matin. C'est parce que je viens ici pour enregistrer ces bandes. Elles sont, voyez, vous pouvez voir dans la pièce, là, les bandes qui sont en train d'être enregistrées. Or, elles vont partout dans le monde. Alors, bientôt, si le Seigneur le veut, le prochain, dès que je vais partir d'ici, je vais partir, si le Seigneur le veut, demain, au cours de la matinée, pour retourner en Arizona, parce que j'ai une série de réunions prochainement. Et puis, c'est complètement de l'autre côté, au sud. Et vous, les gens du sud, qui sont de la Géorgie, et du Mississippi, et du Texas, et de l'Alabama, nous allons passer par là, tout le long jusqu'en Floride, très bientôt. En partant d'ici jusqu'à Phoenix, puis en Californie, et ensuite à Dallas. Et peut-être s'arrêter à San Antonio, je crois que c'est ça, puis là-bas en Alabama et en Floride, en faisant ce trajet. Alors, nous allons vous voir là-bas, si le Seigneur le veut, très bientôt. Et alors, continuez à prier pour nous, et nous vous ferons savoir quand. Si nous, le Seigneur nous met à cœur de tenir pendant quelques jours, ici, cet été, j'avais des séries de réunions prévues. Et beaucoup d'entre vous, à New York, savent que quand la vision est venue, qui disait que ces réunions dans les pays scandinaves, vous vous souvenez de celles qui étaient prévues là-bas? Et puis, pendant que j'étais à New York, la vision m'est venue que chacune de ces réunions serait annulée pour une raison quelconque. Et je me souviens de l'avoir raconté à certains d'entre vous, ici, quand nous étions à New York. C'est exactement ce qui s'est passé, parce que tout le monde voulait avoir la même journée et ils n'ont pas pu avoir le bâtiment. Et donc, ça pourrait laisser une petite ouverture ici en juin. C'est peut-être la volonté du Seigneur. Je me suis dit que je pourrais peut-être revenir pour ces trompettes ici même, avant que ce ne soit trop tard. Voyez, alors nous savons que toute chose concourt parfaitement. Or, c'était sur mon cœur, alors c'est peut-être ce qu'il veut que nous fassions. Maintenant, je vois que vous changez de place les uns avec les autres, et là, dans les couloirs et tout, nous aurions aimé avoir suffisamment de place assise. Et bon, quand nous verrons ces trompettes, nous voulons avoir le gymnase de l'école secondaire. Je pense qu'il contient 5500 places assises. Et là, nous aurions la chance aussi que chacun ait une place assise et s'assoie pour écouter tranquillement pendant que nous prêchons. Les trompettes, elles sont très, très bien. Je regardais ça l'autre jour. Vous voyez, dans le sixième saut, toutes les sept trompettes sonnent juste là, dans ce sixième saut. Vous voyez, juste avant que le septième saut présente la venue du Christ. Et ce soir, j'ai un message très important dont je veux parler juste avant le service de guérison. Et si vous êtes ici et que vous allez rester, eh bien, nous allons essayer, si c'est possible, de commencer juste un peu plus tôt, parce qu'il y aura une ligne de prière. Je ne prêcherai pas trop longtemps, mais il y a quelque chose que je voulais dire à l'Église depuis un certain temps. Et je voulais en quelque sorte vous faire part de la façon dont les choses se déroulent en ce moment. Et simplement où nous en sommes, d'après ce que je comprends des Écritures. Maintenant, je veux que vous preniez avec moi ce matin, si vous voulez noter ou inscrire les versets que nous lisons, du livre d'Ésaïe. Et je voudrais lire dans Ésaïe, le chapitre 42 d'Ésaïe. Nous sommes aussi très heureux ce matin d'avoir frère Dow assis ici avec nous. Pendant que vous prenez, vous savez, il ne pensait pas qu'il allait vivre ici à Shreveport l'autre jour. Mais il a certainement la foi. Oui, monsieur, il s'en est sorti. Le Seigneur continue de le bénir. Oui. Voyez, frère Dow a 91 ans et il a eu un arrêt du cœur et une crise cardiaque en plus. Et même le médecin a dit qu'il ne voyait pas comment il pourrait vivre. Frère Dow est vivant et le médecin est mort. Voyez, parce qu'il... Voyez, frère Dow est assis ici. Et donc, un homme de 91 ans avec un arrêt du cœur et une crise cardiaque. Et là, quand je me rendais là-bas, je l'ai vu qui arrivait en marchant dans la rue. Je l'ai vu dans l'église. Et je suis allé lui dire, sous une tente à oxygène, « Au nom du Seigneur, je vais te serrer la main dans la... Je vais te revoir à l'église et te serrer la main dans la rue. » La réunion suivante, le voilà, assis de nouveau dans l'église, ici. Et je suis allé à Louisville, où nous mangeons là-bas, au Blue Boar, pour manger. Et comme je sortais de ma voiture et commençais à monter la rue, voici frère Dow qui arrive en descendant la rue. Voilà, c'était là parfaitement. Et comme le Seigneur l'a béni. Maintenant, nous allons parler de la guérison ce soir et tout. Et nous avons des choses vraiment exceptionnelles à vous dire ce soir. Mais maintenant, afin que je puisse enregistrer les bondes, puis se préparer à les mettre en marche, je veux commencer par lire le chapitre 42 d'Ésaïe, du verset 1 à 7, et Matthieu au chapitre 4, en commençant, je crois, par les versets 15 et 16. Bon, au chapitre 42 d'Ésaïe, nous allons lire. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point une mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait et établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en ses lois. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveuglés, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Maintenant, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, je voudrais lire l'accomplissement de cette prophétie donnée par Ésaïe. Au chapitre 4 de Matthieu, je vais commencer à lire. Si possible, commençons au verset 12 au lieu de 15. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions des ombres de la mort, la lumière s'est levée. Et dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Et maintenant, un texte un peu étrange sur lequel j'ai entendu quelqu'un parler, qui disait ceci, mais je veux prendre ceci comme texte. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Et maintenant, nous allons parler sur le sujet de la lumière. Ceci fait suite aux trois sujets dont nous venons de parler. L'un d'eux à Tucson ou à Phoenix, sur la raison pourquoi Jésus est venu par la voie de Bethléem. Parce qu'il le devait, car il est Bethléem. Bethléem, B-E-T-H, c'est maison, E-L, Dieu, E-H-E-M, c'est pain, pain, la maison du pain de Dieu. Et chaque chrétien qui est né en Christ est né à Bethléem, la maison du pain de Dieu. Or, là, un type de David, qui était un fugitif au moment où il a été excommunié par son peuple. Il était rejeté. Bethléem était assiégé, et les Philistins étaient postés autour de Bethléem. Et David, un fugitif, un type de l'Église aujourd'hui, de Christ. Voyez, Christ est un fugitif de sa propre Église aujourd'hui. Ils ont un fugitif, c'est quelque chose qui est rejeté. Et David avait été rejeté. Pourtant, il était oint pour être roi. Mais le prophète l'avait oint. Et pendant cette période-là, puisqu'il était un fugitif de son peuple, il avait rassemblé beaucoup de gens vaillants des nations. L'un d'eux a tué 800 hommes un jour, avec une lance ou une épée. Et un autre a sauté dans une fosse et a tué un lion un jour où il neigeait. Et ils étaient en train de cueillir des lentilles, ce sont des haricots ou des pois ou quelque chose. Et ils se sont tous enfuis, et il est resté là et a tué des hommes jusqu'à ce que son bras soit fatigué. Ils ont aussi tué ces géants, frères de Goliath, des hommes vaillants, fidèles à David, parce qu'ils savaient qu'il allait accéder au pouvoir. Ils le savaient, quoi qu'on en dise. Dieu avait mis l'onction sur David, et ils le savaient. C'étaient des gens des nations. Peu importe à quel point il le rejetait, il savait que malgré tout, il allait accéder au pouvoir. Et un jour, là-bas, quel type de Christ aujourd'hui? Un fugitif. Vous dites, Christ, un fugitif? Selon la Bible, que nous, Dieu nous a merveilleusement guidés dans l'étude de ces sept âges de l'Église. Cette Église de Laodicée, Christ était un fugitif en dehors de son Église, rejeté. Il cherchait à revenir à l'intérieur. Voyez, il est un fugitif de sa propre Église. Et la raison pour laquelle il est un fugitif, c'est parce qu'il est la parole. Et elles ne laisseront pas entrer la parole. Elles ont accepté des credos à la place. Et alors, nous découvrons que dans cette grande lutte, ces vaillants hommes qui y accompagnaient David, des gens des nations. Si vous remarquez comment Bethléem a été formé, je ne veux pas aborder ce sujet, mais comment Bethléem, en fait, Rahab, la prostituée, son fils est celui qui a fondé Bethléem. C'était un lieu de culture du blé, et il y avait de la bonne eau en quantité là-bas, et il a fondé la petite ville. Et c'était la plus petite de toutes les villes, car le prophète a dit de Bethléem en Judée, « N'es-tu pas la moindre parmi toutes les villes de Jérusalem ou de Judée? Mais de toi sortira le chef qui paîtra mon peuple, de la petite ville. » David, quand il était choisi là-bas, les grands et bons frères, quand le prophète Samuel est monté pour oindre, ils étaient tous là, de grands hommes vaillants qui, semble-t-il, auraient fait de beaux rois. Mais celui-là même qui était rejeté, David, était celui sur qui l'huile avait été versée. La ville rejetée était celle que Christ, ce sont les rejetés que Christ choisit, voyez, ceux qui sont rejetés. Puis nous voyons qu'après lui est venu Obed, et après lui est venu Boaz, et une autre personne des nations est venue. Et c'est de Ruth qu'il est venu, et de là est venu Isaïe, et d'Isaïe est venu David. Et d'une petite étable, à flanc de colline là-bas, est venu le roi des rois, Jésus-Christ, le fils de David, son fils spirituel. Bon, donc, il était, David lui-même est né dans cette ville, et il fallait qu'il vienne de ce petit endroit. Et elle était appelée Bethléem, ce qui signifie la maison du pain de Dieu. Et il est la maison du pain de Dieu. David est tendu là, sur la colline ce jour-là. Il a regardé en bas, il a vu les Philistins qui étaient postés partout comme ça, et il a dû avoir chaud et soif. Il a dit, « Oh, si seulement je pouvais boire de l'eau de ce puits, encore une fois !» Eh bien, le moindre de ses désirs était un ordre pour les siens, ceux qu'il aimait. C'est pareil aujourd'hui. La moindre des pensées de Jésus ou de ce que dit sa parole devrait être un ordre pour nous, les gens des nations qui l'aimons, car nous savons qu'il accédera au pouvoir. Peu importe combien il est rejeté, les cieux et la terre passeront, mais ceci va quand même régner quand tous les cieux et la terre auront disparu. Et nous savons qu'il accédera au pouvoir, parce que rien n'empêchera cela d'arriver. Ceci, c'est Christ, la révélation de qui il est, et ceci va arriver exactement comme le dit la parole, parce qu'il est la parole. Et le moindre de ses ordres là-dedans, si petit soit-il, si c'est d'être rebaptisé ou quoi que ce soit d'autre, nous le ferons de toute façon. C'est son ordre. Et la moindre des pensées de David était un ordre pour ces gens des nations, car ils sont un type de l'Église des gens des nations aujourd'hui, des hommes vaillants. Voyez, ces hommes qui sont restés avec David étaient des nations, mais des hommes vaillants. Ils n'avaient peur de rien. Ils ne savaient même pas ce qu'était la peur. Un homme a pris une épée et a tué 800 hommes, et ceux-ci étaient tout autour de lui. Quel homme c'était ? L'un d'eux, un autre homme. Il y avait un guerrier égyptien qui accourait avec une longue lance. Il n'avait qu'un bâton à la main. Il a pris le bâton et a fait tomber la lance de sa main. Il a pris la lance et l'a tué de lui-même. Voyez ? Un de ces géants avait des doigts de 35 cm de long, comme ça. Maintenant, 35 cm. Votre doigt est aussi long que votre main. Fermez-la, ouvrez-la. Ça ferait une main longue de 71 cm. Et avec une lance, et d'un bond, il a sauté là-dedans et l'a tué. Voyez ? Pourquoi ? Il était un homme vaillant, un homme des nations, qui considérait en loin qu'il savait aller accéder au pouvoir. Avez-vous remarqué qu'ils étaient si vaillants envers David que lorsque David a finalement accédé au pouvoir, il les a nommés chefs sur des villes ? Jésus n'a-t-il pas promis la même chose ? La même chose, de les nommer chefs. Alors là, quand David a eu le désir de boire de l'eau fraîche, il avait probablement de la vieille eau tiède et stagnante là-haut qu'il buvait. Mais il s'est mis à penser à cette eau fraîche là-bas, à Bethléem, la maison du pain de Dieu. Et il a dit, « Si seulement je pouvais boire de l'eau de ce puits. » Et ces hommes ont tiré leur épée et ont combattu des Philistins sur une distance de 24 kilomètres. Non pas parce qu'ils le leur avaient demandé, mais parce qu'ils savaient qu'ils en voulaient. Et ils ont tué ces Philistins tout le long, jusqu'au puits. Pendant que deux d'entre eux combattaient, l'autre a pris un seau d'eau. Ils ont combattu pour revenir, pendant tout le chemin du retour, et l'ont remis à David. « Parlez-moi d'être vaillant. » David, cet homme saint, a dit « Que Dieu me garde de la boire, alors que ses amis ont mis leur vie en danger. » Il a offert l'eau en offrande. Il l'a répandue sur le sol, pour le Seigneur. « Donnez-la au Seigneur. C'est lui qui en est digne, pas moi. » Ils ont mis le type même de Christ, lui-même, avec sa propre vie éternelle en lui. Le rocher frappé a déversé sa vie sur la terre, en sacrifice d'expiation pour nous, afin que cette parole puisse vivre. Ô gens des nations, comme je l'ai dit, qui va dégainer l'épée avec moi ? Il veut boire de l'eau fraîche ce matin, pas ces vieux credos d'église stagnants et ces choses qui nous font perdre notre temps. Il veut une foi authentique en sa parole. Quelqu'un qui en croira à chaque parole. Allons au puits et ramenons à boire un rafraîchissement, une adoration qui n'est pas bâtie sur des credos et des dénominations, mais une adoration authentique par l'Esprit, avec Christ parmi nous, qui vit sa vie comme il le veut parmi nous. Ce n'est pas avec des credos et ces différentes choses. Acceptons-le simplement, simplement comme cela. Bon, le suivant, c'était la manière dont Dieu a traité avec les gens par un songe, à l'époque de Joseph. Avez-vous remarqué? Un songe est secondaire. C'est une voie secondaire pour Dieu de travailler. Certaines personnes peuvent avoir des rêves qui ne veulent rien dire. Vous pouvez trop manger et faire des cauchemars. Et un songe est une voie secondaire, voyez? Mais pourquoi Dieu protégerait-il son propre fils par une voie secondaire? Il est apparu à Joseph, le bien-être de son propre enfant. Il a envoyé une voie secondaire. Avez-vous déjà pensé à ça? Parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays. Il devait utiliser des songes, et ce n'était pas un songe qui avait besoin d'être interprété. L'ange du Seigneur a dit, « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » C'était inhabituel qu'une telle chose se produise. Joseph, qui était un homme de bien, c'était inhabituel. Dieu est inhabituel. Et une chose inhabituelle est difficile à comprendre. C'est pourquoi il est si difficile de comprendre la vérité aujourd'hui. Elle est si inhabituelle. Une femme qui a un bébé sans connaître d'homme, c'était très inhabituel. Mais si vous êtes honnête et sincère, Dieu peut quand même vous apparaître en songe. Cela montre que tout ce que vous avez, que ce soit votre intelligence, que vous puissiez siffler, chanter, témoigner, ou quoi que vous puissiez faire, si tout votre être est soumis à Dieu, Dieu peut l'utiliser, si seulement vous le laissez faire. Puis, le soir d'après, ici, Fred Neville a prêché sur le sujet de s'échapper, comment l'homme s'était échappé. Et j'ai trouvé cela assez remarquable. Et ce matin, le Saint-Esprit semble me faire traiter du sujet de la lumière, juste après, d'aborder comment la vie de Christ, au commencement, a débuté à la crèche. Nous le reprenons là, dans notre texte. Et il ne le savait pas, je ne le savais pas. Et voici, c'est exactement la même chose. Voyez, juste là, la chose suivante, c'est où il entre dans son ministère. Et ce soir, nous avons quelque chose qui s'harmonisera avec ça, pour continuer ce soir, si le Seigneur le veut. Maintenant, une grande lumière. Les gens des nations qui étaient assis dans la région des ombres de la mort, une grande lumière s'est levée parmi eux. À Zabulon et à Nephtali, dans la, par le chemin de la Galilée, des gens des nations, une grande lumière, ils ont vu une grande lumière. Maintenant, la lumière. La première fois que la lumière, nous le voyons dans la Bible, ça se trouve dans Genèse 1-3. C'était la parole parlée de Dieu qui a fait la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, Genèse 1-3, et la lumière fut. Bon, souvenez-vous donc que la lumière vient par la parole parlée de Dieu. Et la lumière est la confirmation où le sujet dont il a parlé, c'est la lumière. Quand la lumière jaillit, cela montre que Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est une preuve. La lumière est une confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. Une confirmation de sa parole parlée. Maintenant, quand vous voyez sa parole être confirmée, ou, en d'autres termes, être manifesté, être prouvé. C'est une, la lumière de sa parole parlée. Et sans lumière, rien ne peut vivre sans lumière. Il n'existe aujourd'hui aucune vie sur la terre qui soit venue autrement que par la lumière du soleil, une vie botanique, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Voyez, il est la lumière. Maintenant, nous voyons, je crois, comme nous étudions maintenant, et cette lumière, la terre était informe. Bon, certaines personnes se disputent dans nos écoles aujourd'hui et tout, sur le fait que le monde a tant de millions d'années, et ils essayent de condamner la Bible et de dire qu'elle est fausse. Ils ne lisent simplement jamais la Bible, c'est tout, parce que la Bible ne nous dit pas quel âge a le monde. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Point. Quand, comment, c'est on ne le sait pas. Donc ça, c'est le début. Et ça, c'est un point. C'est la fin de la phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça a peut-être pris 100 millions d'années, ou un milliard, ou peu importe combien de temps. Et comment il l'a fait, c'est à lui de le savoir. Voyez, pas à moi. Mais le monde, eh bien, la terre était informe et vide. Et l'eau couvrait la terre. Et Dieu dit, se mouvait à la surface des eaux. Et il a dit, que la lumière soit. Maintenant, je crois que le soleil, et ainsi de suite, existait déjà. Je crois, et la lune, comme ça continue dans Genèse 3, pour l'expliquer. Mais je crois que ce qu'il y avait ici, que le monde, nous allions l'utiliser, et c'est pourquoi, et ça s'est installé. Il y avait du brouillard et de la brume partout sur la terre, ce qui la rendait sombre. Et Dieu a dit, que la lumière soit, et les ténèbres se sont dissipées, et il y eut un ciel sans nuages. Et je crois que c'est la façon de Dieu de faire les choses. Il, dans la Bible, le verset suivant dit, le verset 4 dit, et il sépara la lumière des ténèbres, et il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres. Voyez ? C'est la parole qui sépare, voyez, la lumière des ténèbres. Dieu fait toujours la même chose. Quand il est prêt à utiliser quoi que ce soit, comme quand il s'apprêtait à utiliser cette vieille étoile, ou peu importe ce que c'était, ce monde, il a dû séparer la lumière des ténèbres. Quand il est prêt à partir, à utiliser un groupe de gens, il doit séparer la lumière des ténèbres. Quand il est prêt à utiliser un individu, il sépare la lumière des ténèbres. Voyez ? La lumière vient par Dieu. Et là, rappelez-vous, la lumière vient par sa parole parlée. La parole de Dieu a dit que la lumière soit quand il n'y avait pas de lumière. Et il a envoyé la lumière pour séparer les ténèbres de la lumière. Cette parole de commandement a éclairci le ciel pour que le soleil puisse briller. Et sa parole aujourd'hui est ce qui dissipe toutes les atmosphères d'incrédulité. Je parlais, j'avais, je pense, 11 entretiens juste avant d'arriver à la chaire ce matin, juste là, des cas très sérieux. L'autre jour, un de mes amis, Jim Poole, son petit garçon, il pensait qu'il avait fait une crise cardiaque. Ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. C'était une condition asthmatique qui avait jeté le petit garçon. Il ne pouvait pas. Son petit cœur sautait, et il respirait, et il criait, et il n'arrivait pas à reprendre son souffle. Et il semblait que le petit se mourait. Quand ils l'ont amené ici, et je m'apprêtais à aller à l'hôpital, ils l'ont emmené ici, et j'ai pris sa petite main. J'ai dit, ce qui a causé cela, c'est la rougeole qui a frappé le gamin. Et la rougeole, la fièvre ont frappé le petit garçon. Surveillez-le. Dans quelques jours, je veux le revoir. Il sera couvert de rougeole. Et le voici couvert de rougeole. Vous voyez? Voyez? Alors, qu'en est-il? Dieu sépare les ténèbres de la lumière, ou la lumière des ténèbres. Il sépare la mort de la vie, et il le fait par sa parole. Sa parole est ce qui produit toujours cela. Maintenant, la lumière. Eh bien, or, la semence était déjà sur la terre. Je crois que Dieu avait planté la semence. Et aussi longtemps que le soleil peut atteindre cette semence, elle commence à pousser. Et c'est la raison pour laquelle il n'a fallu que quelques jours pour produire ces choses. Parce que la semence était déjà dans la terre. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de la lumière. Et c'est la façon de faire de Dieu aujourd'hui. Sa semence est déjà ici, sa parole. La seule chose dont elle a besoin, c'est que la lumière brille sur elle. Et il est cette lumière, car il est la parole. La parole et la lumière sont une même chose. La vie qui s'y trouve est la lumière de la parole. Voyez, c'est la vie. Le germe de vie repose dans le grain. Et le grain, la vie, est ce qui sort du grain. Et elle fait sortir la vie du grain. C'est comme ça que Christ, dans la parole, fait faire à la parole ce qu'elle est censée faire. Tout comme la vie dans le grain de blé, ou quel que soit le grain, elle fait faire au blé ce qu'il est censé faire, grâce à la vie qui est en lui. Toute vie. Donc, la vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. La vie ne vient que par la parole de Dieu manifestée. Aussi longtemps qu'elle n'est que dans le livre comme ceci, on peut encore la remettre en question. Mais une fois qu'elle est manifestée, là vous voyez le produit, ce dont elle parlait, être manifesté. Alors, c'est la lumière sur la parole. Voyez, c'est ce qui apporte. La parole l'a dit, et donc, quand cela s'accomplit, c'est la vie dont la lumière. La lumière qui apporte la vie. La lumière apporte la vie. Plantez le blé là-bas, il va, et mettez-le au sous-sol. Couvrez-le totalement, et il ne produira jamais rien, parce qu'il ne le peut pas. Il n'y a pas de lumière là. Mais aussitôt que la lumière le frappe, alors elle produira la vie, si c'est une semence fécondée. C'est la même chose pour la parole. Voyez, la parole est Dieu, et quand la vie la frappe, cela la produit, la lumière la frappe, elle fait revivre la parole. Dans tous les âges, cela a toujours été comme ça. Oh, comme nous apprécions ces grandes choses, comment la parole confirmée est la lumière de la parole parlée. Voyez, Dieu a dit que la lumière soit. Maintenant, que se passerait-il s'il avait dit cela sans que la lumière ne vienne? Alors, nous ne savons pas si c'est vrai ou pas. Nous ne savons pas s'il est correct. Nous ne savons pas s'il est Dieu ou pas. Parce qu'il a dit qu'il y ait et il ne fut pas. Voyez ? Alors, quand Dieu parle et que nous voyons que ça se produit, alors c'est la lumière qui brille, la vérité de la parole. Voyez ? Il y a la lumière et la vie. Toute vie naturelle vient par sa parole parlée. Et le soleil est sa parole parlée. Il a dit qu'il a créé un grand luminaire dans les cieux pour le jour et un plus petit luminaire pour la nuit. Voyez ? Et toute vie naturelle doit venir par la parole parlée de Dieu. Une fleur ne peut pas pousser sans que la lumière de la parole parlée de Dieu brille sur elle. Car le soleil est, le S-O-L-E-I-L, est la parole parlée de Dieu quand il a dit que la lumière soit. Voyez, c'est la vie parlée de Dieu. Et peu importe combien les gens essayent de dire ceci, cela ou autre chose, il est toujours là. Vous devez avoir ce soleil. Alors la vie naturelle ne peut venir que par la parole parlée de Dieu. Et la vie spirituelle, la vie éternelle, ne peut seulement venir que par la parole de vie parlée de Dieu. Cette fois-ci, la vie était le F-I-L-S. En lui est la lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Et il est la lumière parlée de Dieu, pas vrai? La parole parlée de Dieu. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle est pour toujours Dieu, voyez? Et il faut la lumière de Dieu pour frapper la parole, pour la faire vivre. Voici ce qu'il a parlé. Maintenant, que la lumière brille. Amen. Que la lumière brille. Et la lumière amènera chaque parole à sa position correcte, en sa saison. Amen. Oh, vous voyez, quand vient le moment? Parfois, ce grain repose dans le sol, dormant pendant tout l'hiver, comme une semence, du blé d'hiver semé dans la terre. Mais quand ce soleil arrive à point, oh, il faut qu'elle vive. Voyez, et elle ne peut pas vivre sans le soleil. Et Dieu a fait des promesses pour chaque âge et chaque jour. Et quand la lumière arrive à point et qu'elle brille sur elle, elles vont produire exactement ce que la parole a dit, parce qu'il est la lumière et la vie. La parole de Dieu ne vient que par la Bible. La Bible de Dieu est la forme écrite du Fils de Dieu, parce que la Bible dit qu'elle est la révélation de Jésus-Christ. C'est Dieu qui se révèle à travers Christ, et Christ est la parole. Il faut que la lumière de Dieu brille sur cette parole pour la confirmer, pour prouver que Dieu prononce encore la vie éternelle. Il parle la lumière naturelle et produit la vie. La vie ne vient que par la lumière, la parole manifestée ou faite chair. Quand toutes les promesses ont été, dans la Bible, ont été manifestées, ça a été quand Jésus-Christ, la parole, a été fait chair parmi nous. Dieu agit toujours à travers l'homme. L'homme est le sujet de Dieu. Maintenant, s'il fait un peu chaud ici pour vous, vous pouvez baisser les fenêtres ou ce que vous voulez, baisser le chauffage. Peut-être que le concierge pourrait baisser le chauffage un peu. Je vois que beaucoup parmi vous ont chaud et il fait chaud debout ici aussi. Alors, souvenez-vous de ça. Je suis heureux qu'il fasse chaud plutôt que froid parce que j'aime la chaleur. La chaleur amène toujours la lumière, la vie. Il faut du feu. Remarquez maintenant, faites chair. Quand la parole devient chair, elle devient manifestée. Comme, prenez la parole et mettez-la dans la bonne position et la bonne sorte de terre. Elle va produire. La semence produira selon son espèce. Et la parole, plantée dans un cœur bien disposé, se manifestera. Elle produira la lumière. Elle en sortira. Très bien. Rien de naturel ou de spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. La vie ne peut alors venir que par la lumière. Rien de naturel ou rien de spirituel ne peut vivre sans la lumière de Dieu. Pensez à ça. Très bien. Mais quand il nous envoie la lumière, voyez, et fait toutes ces choses, et qu'ensuite nous la rejetons. Maintenant, c'est ça qui est pitoyable. C'est quand la lumière est rejetée alors qu'elle nous est envoyée. Maintenant, pouvez-vous imaginer aujourd'hui un homme qui dit « Je refuse de dire que le soleil existe. Je ne crois pas qu'il y ait un soleil. » Et il s'empresse de descendre au sous-sol et il ferme toutes les portes. Et il s'assied là dans les ténèbres. Et il dit, le soleil, ça n'existe pas. La lumière, ça n'existe pas. Vous sauriez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement chez cette personne. Voyez, il y a quelque chose qui cloche quand il s'empresse d'aller dans un sous-sol obscur et refuse de profiter de la lumière donnée par Dieu. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il ne veut pas de la chaleur de ses rayons. Il ne veut pas de sa substance bénéfique pour la santé. Il ne veut pas de sa lumière pour y marcher. Il préfère s'asseoir dans les ténèbres. Ça montre que du côté naturel, quelque chose cloche avec l'homme, mentalement. Et je dis ceci rempli d'amour et de respect. Il y a aussi quelque chose qui ne va pas spirituellement chez un homme, qui retournera directement dans ses credos dénominationnels et qui refuse de voir la lumière de la Bible alors qu'elle brille directement devant lui. Il y a quelque chose qui cloche chez lui, voyez ? Il retourne dans ses credos et ses rites. Elle ferme la porte et dit, une telle chose, ça n'existe pas. Les jours des miracles sont passés. La guérison divine, ça n'existe pas. Il n'y a rien de tout cela. C'était pour un apôtre. Cet homme est fou spirituellement. Voyez, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il a tiré les rideaux et rejeté le Saint-Esprit qui peut venir sur lui. S'il peut, si vous demeurez en moi et mes paroles en vous, alors la lumière qui brille sur cette parole, demandez ce que vous voulez. Voyez, voyez, il y a quelque chose qui cloche pour qu'il rejette les ressources données par Dieu, que Dieu nous a données pour que nous vivions par elles, sa parole. Le juste vivra par la foi et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas une partie de la parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand un homme la refuse, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec son expérience, qu'il prétende aimer Dieu et ensuite qu'il refuse Dieu. Il y a quelque chose qui cloche chez la personne. Nous savons ça, sans l'ombre d'un doute. Il la rejette, il se précipite dans cet endroit et dit, « Maintenant, je ne veux plus en entendre parler. Ne me parlez pas de ces choses-là. Je n'en crois rien. Vous, peu importe ce que vous dites. » Un homme a dit, il n'y a pas longtemps, « Je vous en avais parlé. » Il a dit, « Peu m'importe que vous ameniez 50 cancers et que vous ameniez 50 médecins pour en témoigner. Je ne crois pas. Peu m'importe que vous ressuscitiez les morts juste devant moi. Je n'y croirai pas. » Vous voyez, il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Il y a quelque chose. Et pourtant, cet homme était un ministre. Voyez, censé être un ministre. Mais juste parce que cette organisation ne croit pas aux puissances de Dieu, ne croit pas que la parole, elle veut dire exactement ce qu'elle dit. L'homme se précipite dans ce sous-sol, ce vieux sous-sol renfermé, crasseux, le sous-sol crasseux d'une organisation, et refuse les rayons du Saint-Esprit, des rayons qui donnent la chaleur et la vie. Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Voyez ? Il préfère vivre dans cette odeur de moisi, dans les ténèbres, et ainsi de suite, que de vivre dans la lumière de Dieu et de la Bible, qui dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. Il ne fait aucun doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Et pour vous, les hommes qui écoutent ceci, partout dans le monde, où que vous soyez, il y a quelque chose qui cloche avec votre expérience quand vous dites que vous aimez Dieu et que vous refusez sa parole. Il y a quelque chose, vous refusez le... Pas étonnant que les choses ne puissent pas, que l'Église est dans cet état et que les choses ne peuvent pas être faites comme Dieu l'a promis. C'est parce que vous ne voulez même pas recevoir la parole ou marcher dans la lumière. La Bible dit, marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière. Alors le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Alors, si nous marchons dans la lumière de l'heure donnée par Dieu, alors Dieu prend cette parole qui est donnée pour l'heure et la confirme. Tout comme il l'a fait dans Genèse 1:3, il a dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Sa parole est sortie et la lumière l'a suivie et a dissipé le brouillard. Les ténèbres sont allées dans un coin et la lumière a brillé de l'autre côté. C'est comme ça que Dieu fait aujourd'hui. Il envoie sa parole pour l'heure et le Saint-Esprit vient et fait vivre cette parole. Et les ténèbres continuent avec leur credo et leur dénomination. Mais la lumière brille parce que c'est la parole de Dieu qui est confirmée, que sa parole est vraie. Maintenant, il n'y a rien de fictif à ce sujet. C'est entièrement scripturaire. Très bien. Maintenant, nous voyons que les sages d'autrefois ont suivi la substance donnée par Dieu. Ils ont suivi la parole de Dieu jusqu'à la lumière, parce que c'était la parole qui a amené la vie. Maintenant, vous dites, comment ont-ils suivi? Eh bien, ils étaient en quelque sorte des mages, d'après ce que nous comprenons. Et puis, nous voyons que Balaam, le prophète, dans Nombre 24:17, Balaam était en quelque sorte lui-même un mage. Il était un prophète, assurément. Et il a prophétisé ici, il a dit qu'une étoile s'élèverait de Jacob. Et quand ces sages ont vu que la parole de Dieu a dit qu'une étoile s'élèverait de Jacob, ils ont suivi ce petit signe donné par Dieu jusqu'à la source de la lumière éternelle. Il en est de même pour les sages d'aujourd'hui qui ne sont pas aveuglés par des credos. Ils vont suivre la parole parlée, donnée par Dieu, jusqu'à ce qu'ils voient la plénitude de la puissance de Dieu s'épanouir en cette heure. Ils la voient, ils savent que c'est ici dans l'Écriture. Dieu l'a promise pour ce jour-ci. Peu importe combien d'observatoires, combien d'autres choses ont dit aux sages, eh bien, vous avez perdu la raison. Ils ont voyagé pendant 2 ans. Ils ont traversé beaucoup de nations. On leur disait, « Où allez-vous ? » ?»« Oh, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, le quartier général dénominationnel, ils n'avaient pas la réponse. Ils parcouraient les rues en criant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ils n'en savaient rien. Alors, ils ont fait appel à la parole pour le découvrir. Ils avaient suivi, ils savaient que cette étoile les conduisait à la lumière éternelle. Guide-nous vers ta lumière parfaite. Et la parole est ce qui vous guide vers la lumière. Et la lumière est ce qui confirme la parole. Remarquez, ils étaient des hommes sages. Et les sages aujourd'hui, pas ça, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tous vos scientifiques, et vous qui comptez sur un grand savoir ou quelque chose du genre, qui vous dit comment diviser un atome, cela ne peut pas vous donner la vie. Il n'y a rien d'autre qui peut vous donner la vie que la parole parlée de Dieu. C'est de là seulement que cette vie peut venir. C'est par sa parole parlée. Et c'est très bien de savoir comment diviser un atome. J'aurais préféré qu'ils ne le découvrent jamais. Mais ils doivent le faire, parce que ce monde est suspendu aujourd'hui. Il fallait que ça arrive pour creuser ces grands trous dans la terre et permettre à la lave de sortir et de rajeunir ce monde à nouveau pour faire une nouvelle terre où les justes marcheront sur la poussière des méchants, où le péché sera oublié. Tout a une façon de se renouveler. Et l'homme à qui il était donné de vivre sur cette terre, par sa propre sagesse, en prenant l'arbre de la connaissance au lieu de l'arbre de vie, il détruira la terre que Dieu lui a donnée pour y vivre. Mais ceux qui sont restés avec l'arbre de vie verront un nouveau ciel et une nouvelle terre où il n'y aura plus de maladie ni de mort. La lumière, Seigneur, envoie-nous la lumière. C'était les anges de Dieu qui montraient la lumière sur la colline pour guider les bergers vers la lumière éternelle. Voyez, ça ne vient que par la lumière. La vie ne peut venir que par la lumière. Les bergers qui voulaient savoir. Vous savez, quand un roi naît, on chante et il y a beaucoup d'excitation quand le roi naît. Bon, quand il est né, cela s'est fait tellement secret. Il est né dans une étable, dans une crèche où mangeaient le bétail et les chevaux. Mais pourtant, il était un roi. Et les anges sont descendus et ont chanté les hymnes aux bergers dans la lumière. Les anges eux-mêmes, étaient des lumières qui brillaient avec la parole de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu et ils leur ont dit, « Aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, est né Christ le Sauveur. » Les anges avaient la parole et la parole est venue par la lumière pour guider. Et ils ont suivi la parole des anges jusqu'à la lumière éternelle. Ils ont trouvé le bébé là, enveloppé dans des langes, comme ils l'avaient annoncé. Car voyez-vous, la vie ne vient que par la lumière. Remarquez, il était la parole faite lumière, ou il est devenu lumière. La parole dans cette génération-là, il était la parole lumière de cette génération-là. Parce que les prophètes d'autrefois avaient parlé de lui. Et le voici qui vient confirmer qu'il était la lumière de la parole parlée de Dieu. Voyez, tout ce que les prophètes avaient dit, avait été accompli en lui. Voyez, les prophètes d'autrefois avec la parole, comme Dieu était au commencement lorsqu'il a dit « que la lumière soit ». Et la lumière est venue. Maintenant, le prophète a dit, « Une vierge concevra, elle enfantera un fils. Ils l'appelleront Emmanuel, car il sera Dieu avec nous. » Bon, il l'avait annoncé, la parole était sortie, mais il était la lumière. Qu'est-ce qu'il était? L'accomplissement. Alléluia! Il était l'accomplissement de cette parole. Il était la manifestation de cette parole. C'est pareil aujourd'hui. La parole de Dieu a été accomplie en cette heure. C'est la lumière. C'est Dieu qui se manifeste. Il était la lumière du monde. Et quand les prophètes, inspirés par le Saint-Esprit, ont dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné » ou « Un enfant nous est donné » et on l'appellera « Conseiller, Prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel ». Voilà, c'était là. Qu'est-ce qu'il était? La lumière qui a accompli cette parole. Amen. La lumière qui a accompli cette parole. Dans Matthieu chapitre 28, nous voyons ceci. Quand Jésus est ressuscité des morts, il était aussi la lumière de la parole parlée de David, qui a dit, « Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. » La mort était dans les ténèbres, mais il a brisé les sceaux de la mort, y est entré, et il en est ressorti. Il était la lumière, la parole confirmée, que les morts peuvent vivre après qu'ils sont morts. Il l'était. Le jour de la Pentecôte, c'était la lumière qui a brillé quand le Saint-Esprit est venu. Ésaïe a dit, au chapitre 28 d'Ésaïe, Ésaïe a dit que par ses préceptes sur préceptes, règles sur règles, un peu ici, un peu là, retenez ce qui est bon. Car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos. C'est ici le sabbat que je donnerai. Malgré tout ça, ils n'ont pas voulu écouter. Ils sont partis et ont secoué la tête. Et quand, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur ces gens, et qu'ils agissaient comme des hommes et des femmes ivres, chancelant sous l'effet du Saint-Esprit, ils sont partis, ont secoué la tête, et ils ont dit, « Ces gens sont ivres, pleins de vin doux », et ainsi de suite. Absolument, c'était la lumière, la parole qui avait été prophétisée, manifestée. Il en est de même dans chaque âge. La parole manifestée qui est venue à la vie est la lumière de cet âge. Voilà la parole manifestée, tout comme dans Genèse 1, quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand Dieu a dit qu'il y aurait un fils, il y eut un fils. Quand Dieu a dit dans Joël 2, 28, « Il arrivera dans les derniers jours que je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur mes serviteurs et mes servantes. Je répondrai de mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. » Et toutes ces choses qu'il a promises, quand lui, le Saint-Esprit, est descendu, cela était la lumière sur cette parole. Quand la parole a été manifestée, c'est là qu'elle est devenue la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière que nous devrions suivre. Il est la seule lumière. Les anges ont trouvé la lumière et l'ont suivi jusqu'à lui. Bon, dans tous les âges, Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge. Dieu envoie toujours quelqu'un en qui cette parole peut entrer et faire jaillir la lumière de cette parole. Dans chaque âge, cela fait la même chose. C'est toujours ainsi. Il était l'accomplissement, comme je l'ai dit, de toutes les saintes puissances divines des prophètes. Ils étaient des dieux mineurs. Quand la parole du Seigneur venait à un homme, Jésus lui-même a dit qu'il était un dieu. Vous savez ça. Il a dit, « Si votre loi dit, et vos pères d'antan, ils appelaient ceux à qui la parole de Dieu venait, ils les appelaient des dieux. Comment pouvez-vous me condamner quand je dis, je suis le fils de ce Dieu ?» Voyez, quand Dieu lui-même, qui a prononcé la parole par les prophètes, il était la manifestation de cette parole parlée. Et si on appelait le prophète un Dieu parce qu'il était la manifestation de la parole d'un autre prophète, comment pouvez-vous le condamner alors qu'il était la même chose? Il était le Fils de Dieu, car il sera appelé le Fils de Dieu. Il était le Messie promis que le monde attendait depuis longtemps. Il était le Messie, la promesse manifestée. Regardez-le, quand il s'est tenu là, il a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. » Voyez, mais si vous ne pouvez pas me croire, croyez les œuvres que je fais. Elles rendent témoignage de qui je suis. Elles vous disent qui je suis. Vous voyez, cette heure aveugle et sombre dans laquelle il vivait, il ne pouvait pas le voir. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Comment pouvait-il être cela? Comment pouvait-il être un fils de Dieu alors qu'il était né ici même, à Bethléem? Si seulement ils avaient su, la parole a dit qu'il viendrait de cette manière-là. Eh bien, son père, Joseph, est un charpentier. Eh bien, sa mère, en fait, on croit parmi nos frères qu'il était un enfant illégitime. Voyez, mais pourtant la parole de Dieu a dit ça. Il a dit, « Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Et elles rendent elles-mêmes témoignage de qui je suis. » Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, ces saintes Écritures. Alors, qu'est-ce qu'il était? La lumière de Dieu. Pas étonnant qu'il ait dit, « Je suis la lumière du monde ». Non seulement il a dit, « Je suis la lumière », mais il a dit, « Vous êtes la lumière ». Si sa parole est en vous et qu'elle rend témoignage d'elle-même, alors vous êtes la lumière du monde. Remarquez, nous voyons que la lumière de chaque âge se manifeste de la même manière. Alors, je veux poser la question comme, avant que notre temps se termine, pourquoi alors l'ont-ils rejeté? Comment ont-ils pu faire ça, alors que là, leur Bible même, qu'ils lisaient, était manifestée devant eux? Or, examinez cela très bien. Là, souvenez-vous, je parle à beaucoup de gens en ce moment, vous voyez, pas seulement à 400 ou 500 ici, mais je parle à bien des milliers. Arrêtez-vous un petit instant, arrêtez votre magnétophone et posez-vous la question, pourquoi un homme religieux, un homme bon, pourquoi Joseph se poserait-il des questions? Voyez, pourquoi Jean? Parce qu'il n'a jamais sondé les Écritures. Pourquoi les sacrificateurs se posaient-ils des questions? Une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait, ils le savaient. Nicodème l'a bien exprimé. Il a dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous sommes conscients de cela. Mais qu'est-ce que c'était? Leur tradition les empêchait de le faire. Alors, pourquoi étaient-ils? Ont-ils rejeté le Messie? C'est par « Pourquoi ont-ils rejeté cette lumière ?» Voici l'accomplissement de la parole. Et ils savaient que c'était ça. Mais quand la parole était manifestée, pour montrer que la parole de Dieu s'était accomplie, comparez ça avec aujourd'hui. Voyez? Alors que dans la parole, c'était écrit que cela se produirait. Pourquoi ces hommes l'ont-ils rejeté? Des docteurs. Parce qu'ils vivaient dans le reflet d'une autre lumière. C'est ça. Ils vivaient dans un reflet. C'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils vivent. La raison pour laquelle ils l'ont rejeté, c'est parce qu'ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. Voyez? Maintenant, ils vivaient dans le reflet de ce que Moïse avait dit. C'est ce qu'ils prétendaient. Ils vivaient dans le reflet de ce qui, en autre âge, était passé. Et c'est la raison même pour laquelle aujourd'hui, ce message que Jésus-Christ est toujours le même est rejeté. Parce que les gens vivent dans les reflets d'autres âges. Pour la même raison, ils vont le rejeter. Maintenant, nous remarquons. Et Webster dit, un reflet est un genre de fausse lumière. Un reflet est une fausse lumière. C'est tout ce qui émet un reflet. Comme un mirage sur la route. Vous descendez la route. Beaucoup d'entre vous qui conduisez des voitures, et vous regardez au loin devant vous. Quand vous voyez ce soleil sur le sol, il réfléchit une lumière. Et comme dans un mirage, il semble qu'il y a de l'eau partout sur la route. Mais en arrivant là-bas, il n'y a rien. Ce n'est qu'un faux mirage, le reflet d'une vraie lumière. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il montre aux gens un mirage, un conseil des églises, un groupe de dénominations qui se révéleront faux. Car c'est parce qu'il y a une véritable lumière qui brille. Si cette véritable lumière ne brillait pas, il ne pourrait pas y avoir de mirage là. La véritable lumière brille. Et c'est, ils vivent dans le reflet d'un autre âge, d'une autre chose, car cela était ici et s'est évanoui. Maintenant, un reflet. Ce mirage est faux. C'est un reflet du soleil. Et voilà comment ils ont fait la même chose. Un faux reflet de la vraie lumière. Maintenant, il s'est avéré qu'il était la vraie lumière. Il était la lumière. Pourquoi savait-il qu'il était la lumière? Comment pourriez-vous savoir qu'il était la lumière? Parce que la parole qui avait été promise était manifestée à travers lui. Donc il était la lumière de cette parole parlée. Amen. Oh, ça me ferait presque crier, moi, un pentecôtiste baptiste. Remarquez, pensez-y, un reflet. Voyez, ils vivent dans un reflet. Mais quand la vraie parole vit, c'est la lumière. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, et si Dieu avait dit au commencement que la lumière soit, et que quelque chose d'autre soit apparu, vous voyez, seulement un mirage. Voyez, ça n'aurait pas été ce que Dieu a dit. Non, ça n'aurait pas été cela. Et si Dieu avait dit que la lumière soit et que plus de brouillard soit apparu, voyez, ça n'aurait pas été de la lumière. Mais la raison pour laquelle la lumière est venue, c'est parce que sa parole a été manifestée. Et aujourd'hui, quand Dieu a dit que ces choses arriveraient en ce temps-ci, et que vous le voyez qui le fait, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière sur la parole de Dieu. C'est la parole devenue lumière qui se manifeste. Maintenant, ils ont dit, « Qui dis-tu que nous sommes ?» Eh bien, il a dit, « Tu essaies de... Nous savons que tu es fou. Eh bien, tu es un Samaritain, tu as perdu l'esprit. Eh bien, tu vas essayer de... Qui peut dire, « Nous savons que tu es né dans le péché. Nous ne savons pas d'où tu viens. Nous n'avons aucune mention de ton identité dans nos groupes. Eh bien, tu es fou, tu es un démon. » Voyez, ils ont dit, « Tu as perdu la tête. » Mais en fait, il était la vraie et authentique lumière de Dieu qui brillait. Et le reflet les avait aveuglés. Nous avons Moïse comme guide. Il a dit, « Si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez connu. » Et si vous croyez Jésus et la Bible, vous connaîtriez cette heure dans laquelle vous vivez. Ils disent, « Eh bien, nous sommes chrétiens, nous. » Si vous l'étiez, vous reconnaîtriez les actes de Christ pour ce jour-ci. Voyez, vous les reconnaîtriez. Jésus a dit, « Tous ces prophètes ont parlé de moi. » Et si vous croyez ces prophètes, eh bien, vous me connaîtriez. Mes œuvres sont l'identification, parce que ce qu'ils ont dit que je ferai, je le fais. Et qui peut maintenant me déclarer coupable d'incrédulité? Et encore là, ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Ils étaient aveuglés par un reflet. Voyez, le reflet de quelque chose d'autre qu'ils avaient accepté comme étant la vraie parole parlée. Maintenant, pensez-y. Ils prétendaient croire cette parole. Mais leur tradition avait détourné leur visage de la vraie parole vers un reflet. C'est pourquoi ils ne pouvaient plus voir la vraie chose. C'est pareil aujourd'hui. Il en était de même dans chaque âge. Voyez là, la véritable parole brille, mais ils sont tellement devenus traditionnalistes qu'ils ne peuvent pas voir cette parole. Ils regardent un reflet et ils sont aveugles. Un reflet vous aveuglera. Il y a un arc qui en émane. Cela vous aveuglera. Et cela, quand Jésus a dit, « Vous êtes aveugles et vous conduisez des aveugles. » Ils auraient dû être en mesure de le voir, de voir qui il était, mais ils ne l'ont pas vu, parce qu'ils vivaient dans ce reflet. Maintenant, un reflet, comme je l'ai dit, c'est une fausse lumière, un mirage, une fausse conception de la vraie lumière, une fausse conception. C'est quelque chose qui est censé lui ressembler, mais qui n'est pas cela. Bon, le seul moyen pour eux de faire la différence, parce que les choses même que Jésus faisait prouvaient qu'il était la lumière. Ils pensaient qu'ils étaient dans la lumière. Mais maintenant, si vous vous arrêtez un instant et considérez là qui est dans la lumière, maintenant, aujourd'hui, si une erreur aussi irréfléchie a été commise par les hommes religieux de cette époque-là, qu'une chose aussi irréfléchie ait été commise, frères, ne pensez-vous pas qu'il est temps que nous nous arrêtions et considérions ce qu'est la lumière? Ne commettons pas une erreur aussi irréfléchie. Mais vous le faites, vous l'avez déjà fait, voyez, et vous ne le saviez pas, tout comme eux à l'époque. Maintenant, arrêtez-vous un instant et voyez ce que la parole dit pour aujourd'hui. S'il s'était arrêté et avait pensé, le voici qui accomplit à la lettre exactement ce que la parole a dit qu'il ferait. Et il les a mis au défi, tout comme je vous mets au défi. Voyez, voyez, je vous mets au défi de regarder dans la parole, de sonder les Écritures. Voyez si ce n'est pas effectivement l'heure. Voyez, sondez les Écritures. Car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de cette œuvre aujourd'hui. Les œuvres elles-mêmes rendent témoignage que cela s'accomplit. Et l'Écriture dit que cela s'accomplira. Alors c'est la lumière de l'heure. La parole de Dieu l'a dit. Vos traditions et tout sont exactement ce que la Bible dit, comme ceux qui ont secoué la tête et sont partis. Toutes les tables sont pleines de vomissements, dit la Bible. Et c'est là qu'ils étaient. Ils ne voulaient pas y croire. Ils ont secoué la tête. Et messieurs, vous rendez-vous compte? Et frères, vous rendez-vous compte de ceci? Que lorsque vous rejetez la chose même que Dieu confirme devant vous, vous faites la même chose qu'eux. Vous retournez à votre vomissement traditionnel, comme un chien retourne à ce qu'il a vomi. Si ça l'a rendu malade la première fois, ça le rendra malade la deuxième fois. Si l'Église catholique, qui est organisée et qui a formé la première organisation, a amené la maladie dans l'Église, ce sera pareil pour les luthériens, les méthodistes et tous les autres, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi et une truie à son bourbier. Voyez, nous y arriverons dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. Un reflet, il marche dans un reflet, voyez, un mirage, une fausse conception de la vraie lumière. Il a prouvé qu'il était la lumière, parce que lui, puisqu'il était vraiment en minorité, oh là là, des millions étaient contre lui. Il n'y avait pas un sixième des gens, pas un 90e des gens sur la terre qui ont su qu'il était ici. Je pense, pas un centième des Juifs, ou à peine un 50e d'entre eux, ou un 40e d'entre eux, je dirais, peut-être moins que ça, de son propre pays, qui ont su qu'il était là. Et ceux qui savaient qu'il était là, le considéraient comme un faux quelque chose, parce que la dénomination leur avait dit que c'est ce qu'il était, voyez? Mais il était pourtant la vraie lumière qui avait été prononcée depuis la Genèse, au commencement. Et il leur a demandé de sonder les Écritures pour découvrir s'il ne vivait pas en ce temps-là. Si lui, les œuvres qu'il a faites, n'accomplissaient pas exactement ce qui avait été promis pour ce temps-là. Amen. Oh, quelle chose sérieuse, frère! Nous vivons à une époque extraordinaire. Il a prouvé qu'il était le bon. Il était la lumière même qu'il prétendait adorer. Il prétendait adorer cette lumière. Et c'est pareil aujourd'hui. Ils prétendent qu'ils adorent cela. Les pentecôtistes le prétendent. Ils prétendent le faire. Ils sont si aveugles qu'ils ne peuvent pas le voir. Pourquoi? Ils s'organisent, mais ils ont un reflet sur leur visage. Voyez? Une tradition, c'est ce que certaines personnes ont mis en place. Et ont dit, on va aller faire ceci, et ceci, et ceci, et cela. Maintenant, nous allons en venir à la raison pour laquelle cela doit arriver, si le Seigneur le veut. Remarquez, ses œuvres étaient la parole vivante elle-même. Ce qu'il a fait était la parole vivante elle-même, montrant qu'il était cette lumière qui avait été promise depuis le commencement du monde. Il était cette lumière. Sa lumière sur la parole promise de l'âge l'a fait vivre exactement ce que la promesse disait qu'elle ferait. Mais il l'avait tellement tordu qu'il ne pouvait pas la voir. Voyez, mais il était la lumière de cet âge-là. Il était la lumière qu'ils prétendaient adorer. Ils pensaient qu'ils adoraient le Dieu même de la création. Ils vivaient et adoraient un reflet. Et Jésus a dit, « C'est en vain que vous m'adorez, en enseignant comme doctrine des traditions d'hommes et non la parole. » Il est la parole, et il était la parole manifestée. Ils auraient dû le savoir. J'espère que cela peut percer partout où l'on entend. Voyez, que c'est la parole manifestée. Oh, vous dites, oh, nous avons la parole. Eh bien, la parole, tout le monde qui le veut peut se promener avec une Bible. Mais quand la parole est confirmée, manifestée, là, vous dites, eh bien, nous croyons. Oui, monsieur, ils croyaient tout le long. Satan aussi. Ces pharisiens, qui pourraient les déclarer coupables de ne pas croire? Mais ils n'ont pas cru la parole de l'heure. Ils adoraient le reflet de quelque chose d'autre. C'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Voyez, ils maintiennent ce que Luther après, ses traditions, ou les traditions de Wesley et le reste d'entre eux, la tradition pentecôtiste. Mais qu'en est-il de l'heure? Les pharisiens maintenaient leur tradition, mais derrière leur tradition se cachait la vraie parole de Dieu qui venait pour resplendir. Et quand elle l'a fait, elle a aveuglé leurs yeux. Ils ne pouvaient pas la voir, parce qu'ils regardaient quelque chose d'autre. C'est pareil aujourd'hui. Puisse Dieu laisser cela pénétrer, jusqu'à ce que ça atteigne le but pour les gens qui devraient le croire. Il est plus tard que vous ne le pensez. Mon fils, Billy Paul, il parle dans son sommeil, mais il ne fait pas très souvent de rêves. Il en a eu un l'autre nuit qui l'a secoué. Il a dit qu'il a rêvé qu'il était dans une église et qu'il... Je n'étais pas encore entré. Il a dit, quand je suis entré, il a dit, le feu jaillissait des yeux. Et j'ai dit, le temps est venu, c'est terminé. Et tout le monde s'est mis à crier, je ne peux pas, mes enfants. Et même ma femme a dit, je ne peux pas amener Sarah à demander la bénédiction à table. Et ainsi de suite. Et j'ai dit, il a dit, je dois aller chercher Lois et le bébé. J'ai dit, Lois ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, l'heure est arrivée. Nous devons partir. J'ai dit, il est minuit maintenant. Avant le lever du jour, Jésus sera ici. Si ce n'est pas le cas, alors je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un a élevé la voix et a dit, personne ne connaît la minute ou l'heure. Je n'ai jamais dit la minute ou l'heure. J'ai dit, quelque part entre maintenant et le lever du jour. Et j'ai dit, allons-y. J'ai dit, mais nous sommes à cette heure-là. Allons-y. Et nous sommes montés dans la voiture. Nous avons commencé. Et nous avons commencé à monter la montagne. Et quand nous l'avons fait, on aurait dit que la lumière apparaissait dans les cieux. Mais c'était sombre sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté sur le bord de la route et que j'ai gardé les mains comme ça. Le feu jaillissait encore des yeux. Et il a dit que j'ai dit, « Seigneur, j'ai fait ceci sur ton ordre. Je l'ai fait simplement parce que tu m'as dit de le faire de cette façon. J'ai fait ces choses selon ce que tu m'as dit. Et j'ai désigné du doigt une grande montagne de granit et une lumière sans le secours d'aucune main a détaché une pierre de la montagne qui pesait des centaines de tonnes. Et la voici qui venait. J'ai dit, « Tournez la tête, ne regardez pas, tout sera fini dans quelques minutes. » Il a dit qu'alors un grand silence sacré s'est installé, alors que cette pierre approchait de l'endroit. Il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Là, voyez, c'est entièrement scripturaire. Vous voyez, la pierre, sans le secours d'aucune main, détachée de la montagne. Et ainsi, un de ces jours, ce sera comme ça, quand vous allez pousser des cris pour avoir quelque chose. Je leur ai dit, vous avez déjà eu cette possibilité. Dieu vous a constamment averti à maintes reprises. Oui, j'ai dit, même si c'est mon propre enfant, ou qui que ce soit, l'heure est arrivée. Je ne peux dire que ce qu'il m'a dit de dire. Et ce sera là, et c'est arrivé. Et puis, tout d'un coup, le voici qui vient. La pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Daniel l'a vu, vous savez, il y a bien des années. Billy n'en savait rien, mais c'était un songe que le Seigneur lui avait envoyé. Maintenant, voyez, ils prétendaient adorer le Dieu même dont ils se moquaient. Et la même chose s'est produite à nouveau aujourd'hui. Par la même raison, ils vivent dans un reflet au lieu de la lumière. Les grandes lumières ont un éclat. Très bien. Regardez dans quelles ténèbres nous sommes aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez les meurtres, les viols, les querelles. Eh bien, la chose s'est accomplie. Je crois que c'est Billy Graham qui a dit, lors de sa dernière réunion, « Dans 10 ans, chaque citoyen de la Californie devra porter une arme pour se protéger. Il ne peut y avoir suffisamment de forces de l'ordre. Les gens sont devenus fous. Les fusillades, les meurtres, les viols et tout. Voyez, c'est devenu fou, voyez, dans les rues. Voyez, c'est un jour dans lequel nous vivons, un jour comme celui de Sodome. Voyez, mais il y a une lumière qui brille. Si seulement il regardait, si seulement il voyait, s'il regardait dans la parole et voyait ce qui est censé arriver en cette heure-ci, il reconnaîtrait les choses qui essayent d'être faites. Bon, ils prétendent qu'ils adorent cette lumière, tout comme ils prétendaient adorer cette lumière. Mais ils adoraient dans le reflet d'une autre lumière, au lieu de la vraie. Voyez, il était la lumière. Les credos et les traditions, dans leur état d'aveuglement, les avaient détournés de la vraie lumière de la parole promise. La parole que Dieu avait confirmée par Jésus, la lumière du monde, qui est venue et a fait vivre cette parole exactement en son temps, exactement en ces jours-là. Il sera retranché au milieu des 70 semaines, c'est exact, qui sont les 3 ans et demi de sa prophétie. Le Messie allait venir, le prince, et allait prophétiser 3 jours et demi, puis il serait retranché des vivants et ferait l'expiation. C'est exactement ça, il a prêché 3 ans et demi. Et l'heure, et le psaume même où David a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 22. « Tous mes os, ils me regardent, ils secouent la tête, ils passent sans me voir. » 850 ans avant, lorsque David a chanté ce cantique par l'Esprit, cela a été considéré comme une prophétie qui a été donnée. Il chantait ces cantiques dans le temple, quand le sacrifice même était suspendu sur la croix, avec ses mains percées. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Voyez ? Vous voyez là? Alors pourquoi? Ils vivaient dans un reflet. Ils n'ont pas vu la lumière. Pouvez-vous imaginer qu'une personne sensée fasse ça? Pas plus que je ne peux imaginer qu'une personne sensée se précipiterait au sous-sol, où ça sent le moisi, et qu'elle fermerait ses portes et dirait « Je refuse de voir qu'il y a de la lumière ». C'est de la folie. Et son côté spirituel a glissé quelque part. Quand un homme voit que la Bible a promis ceci et qu'il le voit vivre juste devant lui et manifester, et qu'il reste ensuite continuellement dans ses credos et ces choses là-bas qui le rejettent, c'est de la délinquance spirituelle. C'est tout à fait exact. Le voilà maintenant. Il était la lumière du monde. Et le monde, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas connu. Il est venu dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Voyez, mais à tous ceux qui l'ont connu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, à ceux qui ont cru en lui. Souvenez-vous, nous ne pouvons pas vivre par la lumière d'hier. La lumière d'hier n'est plus, elle n'existe plus. Elle, la lumière d'hier, n'est qu'un souvenir. La lumière du soleil d'hier n'est qu'un souvenir, ou c'est de l'histoire. On ne peut pas vivre dans la lumière d'hier. On ne le peut plus. Et le même, bien que ce soit le même soleil, mais chaque jour, il brille un peu plus fort pour faire mûrir le grain pour la moisson. Voyez ? Le soleil qui se lève aujourd'hui, il devient un peu plus fort. Chaque jour, là, il va devenir un peu plus fort. Et jusqu'à ce que finalement le blé qui se trouve là, il prendra vie. Au bout d'un moment, là, la vie apparaîtra. Puis, un peu plus fort. Mars, avril, mai, juin, juillet, il arrive à la moisson, vous voyez. Le même soleil qui brille aujourd'hui, en janvier ou en décembre, qui est là-haut, plombe sur cette neige et la fait fondre sur ce grain, ce qui lui apporte de l'eau. C'est le même soleil, mais ce blé n'aurait pas pu vivre sous cette même lumière du soleil en juin. Vous voyez, il ne pourrait pas le faire. Vous voyez, le soleil devient un peu plus fort chaque jour. Et le grain devrait être un peu plus mûr pour recevoir la lumière du soleil. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le grain qui a été semé à l'époque des premiers pères, là-bas, du temps de Luther, de Wesley et des autres, sa croissance a décliné. Il ne peut pas accepter le Fils. Le Fils le tue. Il a refusé de croître. Voyez ? Il l'a retranché. Il s'est retiré de la tige, en quelque sorte. Et il est venu là et a commencé sa propre petite chose. Ça devient alors une balle. Et il n'y a plus de vie dedans. Le grain devrait mûrir et devenir plus fort. comme le Fils devient plus fort chaque jour. Maintenant, observons un instant. Nous allons observer les âges de l'Église. Il y a 7 âges de l'Église. Et comme ces âges de l'Église, regardez chacun d'eux, comment il leur a parlé de ce qui arriverait, que le grain allait mûrir et venir jusqu'à cette dernière heure ici, cette dernière heure où nous vivons. Donc, les Églises doivent faire la même chose, voyez, les Églises. Maintenant, regardez, Luther a semé un grain, et Luther était un grain, et l'a semé. Très bien. De même que Wesley, et aussi de même que les pentecôtistes, de même que les baptistes, les nazaréens. Mais voyez-vous, Luther ne voulait pas retourner vivre de la lumière de la première dénomination catholique. Non, monsieur, il était une autre lumière. C'était Dieu qui faisait mûrir quelque chose. Maintenant, une petite minorité en est sortie, ce réveil luthérien, puis est venu le réveil de Wesley. Et là, en cela, eh bien, ils ne pouvaient pas revenir en arrière et faire comme les luthériens, voyez. Puis sont venus les pentecôtistes. Et alors, les pentecôtistes se sont organisés et ont fait la même chose. Ils ont opté pour la balle. Remarquez, mais le grain continue de croître. Maintenant, nous sommes dans un autre âge. Pourquoi ne le reçoivent-ils pas? Pourquoi ne voient-ils pas que le grain est mûr? Voici la parole promise pour aujourd'hui. Pourquoi ne la voient-ils pas? Parce qu'ils vivent dans le reflet de Luther, le reflet de Wesley, le reflet baptiste, le reflet pentecôtiste. Ils vivent dans le reflet d'une autre lumière. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir la lumière de la pleine parole qui est confirmée comme Dieu l'avait promis. Ces 7 sceaux où le mystère tout entier a été révélé reviendraient et diraient pourquoi ces mystères ont été faits ainsi. Et pourtant, quand cela arrive, ils s'en éloignent plus que jamais. Ils sont sans excuse. Dieu l'a fait par l'Esprit, par des révélations. Il l'a parfaitement prouvé par la science et tout le reste que c'est la vérité, que c'est la vérité. Et malgré tout, ils veulent vivre dans le reflet pentecôtiste. Je fais partie des assemblées, je fais partie des unitaires, je fais partie de l'Église de Dieu, je fais partie de ceci. Voyez, ils vivent dans le reflet d'un âge d'il y a 40 ou 50 ans. Ils vivent dans un reflet luthérien, ils vivent dans un reflet wesleyen, un baptiste, un presbytérien ou d'un reflet nazaréen quelconque, d'un autre âge de l'Église qui est passé. Ils se sont organisés et ont fait la même chose. Ils refusent et rejettent la lumière alors qu'elle brille bel et bien. Et vous vivez dans un mirage. Je le dis avec révérence, voyez, mais vous êtes, ce n'est pas pour vous blesser, mais pour vous réveiller. Vous vivez dans un mirage. Qu'en est-il si Jésus a dit, eh bien, vous êtes aveugles et vous conduisez des aveugles. Il ne pouvait pas. Il a essayé de leur dire et ça n'a pas marché. Il a dit, laissez-les faire. Si l'aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. C'est l'heure à laquelle je suis arrivé. S'ils doivent chanceler, je n'y peux rien. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je l'ai fait conformément. J'ai fait ceci sur ton ordre, Seigneur. Vous en êtes témoin. Depuis 1933, là-bas, à la rivière, quand cette lumière que vous voyez là a brillé, elle a été ici même, dans le tabernacle, et vous a rendu témoignage pendant toutes ces années. Et tout ce qu'elle a dit s'est accompli. Et eux, ils continuent sans cesse. Laissez l'aveugle conduire l'aveugle. Je vais simplement attendre cette heure. Il arrivera un de ces jours. Observez, ils vivent dans le reflet de Luther. Ils vivent dans le reflet de Wesley. Ils vivent dans ces reflets passés. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas voir la vraie lumière. S'ils s'arrêtaient quelques minutes et s'ils prenaient simplement la Bible et la lisaient, ils verraient que là, c'est la lumière promise pour l'heure. Nous allons maintenant voir certaines de ces choses dans un instant. Il a promis, selon Malachie 4, que ces choses arriveraient. Il a promis, tout au long des Écritures, qu'elles arriveraient. Voyez, observez Israël aussi, notre type, pendant le voyage. Regardez, ils mangeaient de la manne, qui était leur lumière vie, qui leur donnait la force, la vie. Pas vrai? Israël ne pouvait pas manger la manne qui était tombée sur eux le jour d'avant. Elle était contaminée, elle était pourrie, elle n'était pas bonne pour eux. Ils mouraient en la mangeant. La manne qui les maintenait en vie hier les tuerait aujourd'hui. La Bible dit qu'il y avait des germes dedans. Elle était contaminée. Et la manne, ils devaient se procurer de la nouvelle manne chaque jour. Amen. Qu'est-ce que c'est? Les gens qui vivent de la manne, de Luther, Wesley et ceux du passé. Vous mangez des trucs contaminés qui vous tuent spirituellement. Ça vous tue. Vous êtes mort dans vos traditions. La manne d'hier, de Luther, ne fonctionnait pas pour les méthodistes. La manne méthodiste ne fonctionnait pas pour les pentecôtistes. La manne pentecôtiste ne fonctionnera pas pour aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque jour, elle tombe, jour après jour, fraîche. Et c'était ainsi à travers les âges de l'Église. La manne de Luther était le message de la justification. Le message de Wesley était la manifestation de la sanctification. Le pentecôtiste était la restauration des dons. Mais ceci présente la pierre principale, le dernier jour, l'arbre épouse. Ce qui est contraire à tout cela. Et pourtant, c'est la même lumière pour ceux qui sont mûrs, comme le même soleil qui brille aujourd'hui fera mûrir le grain pour la moisson en juillet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la lumière d'aujourd'hui ne servirait à rien là-bas en juillet. Elle est plus forte. Le blé est plus avancé. Il est prêt à la supporter. Amen. Certainement. Ils ne pourraient pas le supporter maintenant. Ils le peuvent là. La saison n'était pas la bonne à ce moment-là. Elle l'est maintenant. Vous ne pouvez pas aller contre la nature de Dieu. Il a une loi. Et d'aller contre cette loi, cela tue votre plante. Vous devez agir selon les lois prononcées par Dieu. Et ces lois sont sa parole. Toute loi est une parole parlée. Et une parole est une pensée manifestée. Voyez ? Maintenant, nous savons que c'est vrai. Une vision, c'est quoi? La parole de Dieu, ou quelque chose qui est annoncé d'avance, ou la prédiction d'un événement. Et une vision que les prophètes avaient, que Jésus avait, que Paul avait, et tous les autres qui parlent de ce jour-ci, c'était une prédiction de ce qui arriverait. Et ici, nous voyons la prédiction manifestée, et les gens ne la reconnaissent même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, la manne d'hier. Regardez bien. Avez-vous déjà remarqué que le soleil, S-O-L-E-I-L, a voyagé de l'est à l'ouest, comme il l'a fait chaque fois? Avez-vous remarqué ça? Et remarquez, les âges de l'Église ont fait la même chose. Qu'est-ce? Le soleil, F-I-S-O-L-E-I-L, a commencé à l'est, et la civilisation a voyagé avec le soleil. La lumière parlait de Dieu pour qu'ils y vivent. Ils sont venus en suivant le soleil. Ils regardaient où il allait. La vie elle-même, quand vous êtes né, est comme un soleil. Vous continuez jusqu'au coucher du soleil, de votre naissance jusqu'au coucher du soleil. L'homme a toujours voyagé vers l'ouest. La plus ancienne civilisation que nous ayons est la Chine, dans les pays de l'est, Jérusalem. Et remarquez, elle continue de voyager vers l'ouest. Et elle continue sans arrêt vers l'ouest. L'âge de l'Église aussi a voyagé de la même manière, par le F-I-L-S de Dieu. Regardez, Paul, l'Église primitive, a commencé à l'est. Elle est partie de là, a traversé la mer jusqu'en Allemagne. Elle a fait trois poules. Regardez ici, de l'Asie en Palestine. Elle a sauté de l'autre côté de l'océan jusqu'en Allemagne. Ça, c'était Luther. Et elle a sauté de Luther de l'autre côté de la Manche jusqu'en Angleterre avec Wesley. Et de Wesley, elle a sauté sur la côte ouest jusqu'aux États-Unis. Et ceci, si vous allez plus loin, ça retourne à l'est. C'est déjà le temps du soir. Regardez le combat au cours des âges de l'Église. Luther, Paul d'abord, dans l'âge primitif, puis s'est descendu en Irlande, vers Irénée, et ainsi de suite, jusqu'en France. De là, en Allemagne, en Angleterre, en allant continuellement vers l'ouest. Et maintenant, on ne peut plus aller plus loin. Ceci est le dernier âge. Et qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ce dernier âge? Voyez, quelle que soit la façon dont on le regarde, géographiquement, selon les chronologistes, scripturairement en premier, l'Écriture, bien sûr, en premier, par l'évidence historiquement, quelle que soit la façon dont vous voulez le regarder, nous sommes à la fin, le dernier âge de l'Église. Et regardez, au fur et à mesure qu'elle avançait, elle devenait de plus en plus forte. Il en est de même pour la véritable petite minorité de l'Église. Elle a avancé de la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit, et maintenant jusqu'à la venue de la pierre fêtière. Elle prend forme. Il n'y a plus d'organisation après ceci. Il n'y en aura plus. Voyez, ça ne peut pas. Voyez, nous sommes à l'ouest. Juste pour vous montrer, à travers tous les types et tout le reste, et regardez ces trois sauts, ces trois poules. Nous en parlerons ce soir. Voyez, voyez, comment nous sommes au temps de la fin. C'est simplement le S-O-L-E-I-L a voyagé comme le F-I-L-S. Le F-I-L-S comme le S-O-L-E-I-L. L'Église a voyagé pareillement des sept âges de l'Église, et ainsi de suite. La civilisation a continué à avancer vers l'Ouest, et l'Église a continué à avancer vers l'Ouest. Et maintenant, si nous allons plus loin qu'où nous sommes maintenant, nous revenons à l'Est. Vous quittez la côte Ouest, vous retournez directement en Chine, au Japon. Vous y retournez. Après avoir traversé 11 200 km, vous retournez directement à l'Est. Donc, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. C'est tout. Nous sommes à la fin. Il ne reste plus rien d'autre. Et la même chose qui s'est produite aujourd'hui s'est produite à cette époque-là. La même chose qui est arrivée à l'Ouest est arrivée à l'Est. Les gens qui vivent dans le reflet d'une autre lumière essayaient vraiment de montrer la lumière qui devait venir et l'ont rejetée parce qu'ils avaient le reflet au lieu de la lumière. Oh, il y a eu une grande lumière dans le pays des gens des nations, Zabulon, Nephtali, de Galilée, en Galilée, et le pays des gens des nations. Ceci, c'est le septième âge de l'Église. Rappelez-vous, et chaque fois que ce soleil commence à briller à l'est, c'est le même soleil qui brille à l'ouest. Et le même esprit qui a été là, comme ça, tout au long des âges, c'est le même fils aujourd'hui. Seulement, qu'est-ce que c'est? Tout comme le mûrissement, la saison, le soleil qui est là maintenant sera le même soleil qui fera mûrir le grain cet automne. Cet automne, voyez? Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce soleil plus ce qu'il sera. Et aujourd'hui, dans ce dernier âge, c'est ce qu'ils étaient plus ceci. Et pourtant, ils veulent vivre dans ce temps-là, comme un nain. Ils descendent dans une vieille interdénom, un vieux sous-sol dénominationnel, renfermé et des credos. Et ils ferment leur store et disent « Je refuse simplement de le voir. Tout cela n'a pas de sens. » Et alors que la Bible elle-même, qu'ils prétendent croire, est en train d'être identifiée par le même Saint-Esprit qui apporte la lumière dans les derniers jours. Avez-vous remarqué? Et regardez bien attentivement là, dans Malachie, comment il a assigné cela. La foi des pères aux enfants et des enfants aux pères. Voyez, le même esprit qui s'est levé là-bas, il se lève encore ici. La même chose. Voyez, c'est simplement l'inverse. Exactement la même chose se produit à nouveau. Pourquoi? L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Juste là, sous nos yeux. Et pourtant, ils ne le voient pas. Pourquoi? Pas étonnant que Jésus ait dit « Laissez-les faire, ils sont aveugles, ils conduisent des aveugles, ils tomberont tous dans la fosse. » La lumière des autres âges n'était qu'un reflet de cette lumière-ci. Voyez, le soleil d'aujourd'hui n'est qu'un reflet. C'est le reflet de ce que sera le soleil en juillet ou en août, si Dieu pour la moisson. Et le fils de Luther, Martin Luther et Wesley, et Sankey, Finney, Knox, Calvin, Moody, tous les autres, ces grands hommes d'autrefois qui avaient ces lumières, et John Smith de l'église baptiste, et Alexander Campbell, l'église campbellite, et ceux qu'on appelle les disciples de Christ, l'église chrétienne, et tous les autres noms qu'ils portent. Tous ces hommes autrefois, dans leur âge, ne faisaient que refléter ce que ce sera à la fin. Et là, les enfants, immédiatement après ces fondateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas restés sur la tige. Ils se sont retirés d'elle et ont formé une petite balle ici. C'est que si vous vous éloignez de la véritable source de vie, vous n'avez pas de vie. Si vous retirez la balle de la chose et que vous la plantez dans le sol, elle va y rester et pourrir. Et vous aussi, en essayant de manger la manne pourrie de ces époques-là. La moisson est mûre. Jésus a dressé la table où les saints de Dieu sont nourris de la nourriture mûre du jour. Par la lumière de l'Évangile qui confirme et prouve qu'il est ici aujourd'hui. Amen. Les saints mangent le pain. Pensez-y, la vieille balle d'hier. Voyez, ne la plantez pas là. Elle est pourrie. Elle ne peut pas subsister. Non, monsieur, ça ne servira à rien. Elle ne croîtra pas. Elle est séparée de la vie. est la parole et la vie. C'est vrai. La balle tombe, la petite barbe tombe, et ainsi de suite. Elle se forme en dénomination et tombe. Elle refuse de continuer avec la vie, mais la lumière la confirme. Oh là là, oui monsieur, celle d'hier, oh là là, comme nous devrions voir cela. Voyez que les choses pourries d'hier, ne les mangez pas aujourd'hui. Voyez, il y a des vers dedans. Vous savez ce que j'appelle des petits vermisseaux? Je ne sais pas. Je ne connais pas grand-chose sur la vie des germes. Mais je sais qu'on les a toujours appelés des vermisseaux. Ça se forme dans n'importe quoi quand ça devient un peu pourri. Voyez, alors je n'en veux pas. Si vous êtes satisfait avec ça, allez-y. Mais pas moi. Mais souvenez-vous, vous dites, alors pourquoi était-ce bon hier? Si seulement vous saviez que la toute petite enveloppe qui était sur le blé au début, si elle reste dans le grain, elle fait grandir le grain. C'est précisément ce qui forme la fleur de blé. C'est ce qui était hier. Mais si elle se sépare du grain et qu'elle ne mûrit pas, alors elle disparaît, voyez. Mais si elle passe par le processus qui donne la vie, quand elle meurt, elle se fond en quelque chose d'autre et produit le grain. Si ce n'est pas le cas, d'où vient-il? Amen. Vous saisissez? Comme la reine d'Angleterre, une fois, elle s'est rendue dans une grande usine de papier et elle a dit qu'elle aimerait visiter les moulins à papier. Alors, ils lui ont fait visiter les moulins à papier, il y a bien des années, avant qu'ils le fabriquent à partir de pâte à papier et ces choses. Alors, ils ont découvert, ils fabriquent du papier à partir de ça. Alors, au bout d'un moment, elle est entrée dans une pièce qui n'était remplie que d'un gros tas de chiffons sales. Elle a dit, « D'où vient tout ceci? Qu'est-ce que c'est ?» Oh, elle a dit, le président de l'usine a dit, « C'est avec ça qu'on va faire le papier. » Ces chiffons sales. Elle a dit, à partir de ça, faire du papier? Oui. Alors, elle pouvait difficilement le croire. Donc, après qu'elle est partie, l'homme a pris le même tas de chiffons sales, les a fait passer par un certain procédé, et en a fait sortir du papier propre et pur. Vous savez, ils étaient passés par un procédé et rendus du véritable, puis il a appliqué le portrait de la reine là-dessus, et le lui a envoyé, montrant son reflet dans ce qu'elle appelait des chiffons sales. Voilà, c'est ça, les choses mortes d'hier. Le message de Luther, le message de Wesley, le message de Pentecôte, si seulement cela peut passer par le processus du Saint-Esprit de Dieu et de la parole confirmée, cela produira le reflet de Jésus-Christ, le roi. Amen. Mais si vous les laissez là, ce sont des chiffons sales, voyez. Ce doit être façonné en quelque chose d'autre. Luther doit être façonné en Wesley, et Wesley doit être façonné en pentecôtisme, et le pentecôtisme doit être façonné en Christ. Ça passe par un processus. Il en est de même pour l'Évangile, qui est passé par un processus. Il est en cours de processus. L'âge de Luther, de la justification, nous croyons ça. De Wesley, de la sanctification, nous croyons ça. Les pentecôtistes, de la restauration des dons, du Saint-Esprit, nous croyons ça, certainement. Mais façonnez tout cela ensemble. Qu'est-ce que vous obtenez? Jésus. C'est vrai, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, ça va produire Jésus. Quand un homme, dans une fonderie, fabrique une cloche, il doit faire en sorte qu'elle produise une certaine note. Lorsqu'il prépare son moule et qu'il verse son fer, il met tant de laiton, tant d'acier, tant de cuivre. Pourquoi? Il sait exactement combien il faut en mettre pour produire, pour qu'elle produise la bonne note. Et c'est ce que Jésus a fait par son épouse. Il a dû y mettre tant de Luther, tant de méthodisme, tant de presbytérianisme, tant de pentecôtisme. Mais qu'est-ce qu'il obtient? Son propre reflet. Qu'est-ce que c'est? Tout comme le message de la pyramide, vous voyez, il prend forme, arrive dans une minorité, avec la pierre principale. Le ministère de Jésus-Christ sur la terre doit être le même que le ministère qu'il avait, ou il ne pourra pas y venir. Tout comme la tête, pour les pieds. La tête, les pieds ne sont pas la tête, mais la tête dirige les pieds, ou fait que les pieds vont là où elle leur dit d'aller. Vous saisissez? C'est magnifique. C'est la lumière de l'heure. Wesley était une grande lumière, comme il l'a dit à Jean-Baptiste. Il était une grande lumière pour son heure. Bien sûr qu'il l'était. Non. Oui, monsieur, les chiffons propres ou les chiffons sales d'hier. Si vous restez comme ça, il faut... Ça deviendra tout le temps des chiffons sales. Cela a accompli son but, comme vêtement. Mais maintenant, ça devient du papier. La justification a fait son temps dans la justification sous Luther. Puis elle a dû devenir la sanctification par Wesley. Et la sanctification a fait son temps jusqu'à ce qu'elle devienne le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit a fait son temps jusqu'à ce que le Saint-Esprit, là, il n'y a qu'un seul Dieu, se fonde dans l'Église et l'Église en Christ. Et cela reflète Jésus-Christ sur la terre, ce qu'il a promis ici dans la Bible. Vous n'y croyez peut-être pas. Je ne peux pas vous forcer à le croire. Je ne suis responsable que de la parole. Voyez, c'est vrai. Ainsi, vous le voyez? Voyez-vous cela? Si oui, ce sera comme l'homme qui un jour est allé pendant... Il est allé au pays de Galles, à l'époque du réveil du pays de Galles. Un groupe d'hommes des États-Unis y sont allés. Alors, ils y sont allés. Et ils ont dit qu'ils voulaient savoir dans quel bâtiment se tenait ce réveil du pays de Galles. Beaucoup d'entre vous se souviennent du réveil du pays de Galles, ce grand réveil qui a éclaté parmi les Gallois au pays de Galles. Alors ces hommes, ces très grands ministres, et ainsi de suite, qui venaient des États-Unis, ils étaient docteurs en théologie. Ils voulaient aller voir cette grande chose qu'ils avaient faite, vous savez. Alors, ils marchaient dans la rue, et ils ont dit, ils ont rencontré un petit policier debout au coin de la rue, qui faisait tournoyer sa matraque, vous savez, et qui sifflait un hymne comme ça. Ils ont dit, eh bien, il est en train de siffloter un hymne. On pourrait s'approcher et aller le voir, voir ce qu'il va faire. Eh bien, lui poser une question. Donc, ils se sont approchés de lui et ont dit, « Monsieur, où se trouve le réveil du pays de Galles ?» Il a tiré son chapeau, il a dit, « Messieurs, le réveil du pays de Galles a lieu ici, dans son cœur. » Oh, c'est ça, c'était lui, le réveil du pays de Galles. Oh Dieu, si nous pouvions seulement comprendre que nous sommes le reflet de Jésus-Christ, de sa parole manifestée. Vous êtes le reflet de sa parole, voyez? Où a lieu le réveil du pays de Galles? Dans quel bâtiment est-il? Il a dit, « Monsieur, il est dans mon cœur. » Il était le réveil du pays de Galles. C'est vrai. Et aujourd'hui, l'Église devrait être Jésus-Christ en action sur la terre. Parce que je vis, vous vivez aussi, et ma vie sera en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Voyez, l'Église doit parvenir à cet endroit, elle aussi. Elle a promis qu'elle y parviendrait, et elle y parviendra. Il faut qu'elle en arrive là. Alors, vous voyez, c'est ce qui arrive. Nous devons être comme ça. Il est la lumière. Noé aussi était la lumière à son époque. Il était la lumière. Noé était cette lumière. Il était la lumière pour faire quoi? Pour accomplir la parole de Dieu. J'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé. Construis une arche, et tous ceux qui désirent y entrer seront sauvés. Noé s'est avancé là et a dit, il n'y a qu'un seul moyen, et c'est l'arche. Ils ont dit, le vieux fou fanatique, il était la parole manifestée. Noé était la lumière de l'heure. Bien sûr qu'il l'était. À son époque, son âge, il a fait paraître la lumière. Moïse était la lumière de son époque. « Je te visiterai », a dit Dieu à Abraham. « Je descendrai, je ferai sortir mon peuple par une main puissante et je démontrerai ma puissance en Égypte. » Et là-haut, quand Moïse a rencontré ce buisson ardent là-haut et a découvert le « Je suis » qui était dans ce buisson, Moïse est descendu là-bas et il était la lumière. Amen. Pas étonnant qu'il ait pu prendre de la poussière, souffler dessus et dire que les puces viennent sur la terre. Il avait la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La poussière a commencé à tournoyer et les puces ont commencé à exister. Alléluia! Pourquoi? Il était une manifestation de la lumière de la parole de Dieu. J'enverrai des plaies en Égypte. Il était un prophète. Ce qu'il disait s'accomplissait. Il était la lumière de ce jour-là. Il était la lumière de Dieu. Pharaon pouvait peut-être avoir tout ce qu'il voulait, et les autres, tous les prêtres, avaient ce qu'ils voulaient. Mais Moïse était la lumière. Pourquoi? Il démontrait la parole de Dieu manifestée. Dieu a promis, « Je les ferai sortir par une main puissante, et j'en recevrai la gloire. » C'est ça qu'il faisait. C'est pour ça que Moïse a prouvé qu'il pouvait créer, pas parce qu'il voulait créer, mais parce que Dieu lui a dit de le faire. Et avec cela, va vers l'assemblée, dis, « Demain, le Seigneur Dieu vient de me parler. Prends une poignée de poussière, jette-la dans les airs, comme ceci, et fais venir les puces. Il n'y en a aucune ici, mais elles seront là. » Amen. Oh, j'espère que vous ne dormez pas. Oh, la manifestation. Il a dit, « Je suis envoyé. » Dieu a dit à nos pères que certainement il nous visiterait ici et qu'il nous ferait sortir. Je suis venu vous prouver que l'heure est proche. Débarrassez-vous de ce que vous avez. Allons-y. Oui, certains d'entre eux ont dit, « Eh bien, je crois. » Dathan a dit, « Je ne pense pas qu'il y ait d'urgence. Nous ne devrions pas nous affoler à ce sujet. » Il semblait que cela avait échoué 4 ou 5 fois, mais quand même, cela avançait. Ils ont pensé, ils sont sortis et ont dit, « Nous allons lapider ce Moïse. Éloignez-le de nous. Nous ne voulons pas de lui dans notre groupe ici. » Moïse a continué à avancer quand même, parce qu'il était la vie, il était la lumière de l'heure. Ce qu'il avait, qu'est-ce que c'était? Dieu qui manifestait sa parole promise à travers Moïse. Et Moïse était la lumière. Élie était la lumière. Va là-bas et installe-toi sur cette colline. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Amen. Oui, monsieur, il est revenu avec l'ainsi dit le Seigneur. Même la rosée ne tombera pas du ciel tant que je ne l'aurai pas fait venir. Amen. Le soleil peut briller. Vous pouvez réclamer que tous les nuages viennent et faire tout ce que vous voulez. Mais même la rosée ne viendra pas tant que je ne l'aurai pas fait venir. Qu'est-ce qu'il était? La lumière. Alléluia. Il était la lumière. La lumière. Il était la parole de Dieu manifestée. Il pensait qu'il était fou, assis là-haut. Il avait des porteurs qui le nourrissaient, alors que les gens se mouraient de faim. Il voulait vivre dans leur tradition. Allez-y, pas Moïse, ou pas Élie. Il vivait en plein dans la lumière. Assis près du torrent de Kérit, il avait simplement du bon temps. Il avait des repas et quelqu'un pour s'occuper de lui et tout. Il pensait qu'il était fou, mais il était la lumière. Ils disent, « Hé, qu'est-il advenu de ce vieil exalté qu'on avait par ici ?» Eh bien, vous savez quoi? Quelqu'un était en train de chasser l'autre jour et, en passant, a dit l'avoir vu assis là-haut, tout en haut de cette montagne là-bas. Je parie que ce vieillard est presque desséché alors qu'il est. Oh non, il était la lumière. Il était la lumière. Il était la lumière de Dieu à son époque. Jean, quand il est venu sur la terre, il est allé dans le désert pour recevoir son instruction de Dieu, pas du séminaire. Il devait présenter le Messie. Alors, quand il est arrivé, Jésus a dit, il était une lumière éclatante qui lui. Alléluia. Pourquoi? Il était la parole manifestée. Ésaïe l'a dit, c'est ça, c'est vrai. Il a envoyé une voix dans le désert qui criait, disant, « Préparez le chemin du Seigneur et redressez sa porte, aplanissez le sentier. » Il criait, « Celui, voix de celui qui crie dans le désert, le voilà qui arrive. » Qu'est-ce qu'il était? La voix de celui qui crie dans le désert. Qu'est-ce qu'il était? La manifestation de la parole, la lumière, le même Dieu qui a parlé dans la Genèse, qui a prononcé ceci, et voilà la lumière qui paraît. Comme il a dit, que la lumière soit pour le soleil est apparu. Il a dit qu'il y aurait la voix de celui qui crie dans le désert, la voici qui arrive. C'était la lumière de l'heure. Il a aussi dit, dans les derniers jours, Amen, c'est la lumière de l'heure, criant dans le désert de Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. Ne touchez rien de ces choses impures. Éloignez-vous de ça. Fuyez la colère à venir. Jean a dit la même chose. La hache est mise à la racine de l'arbre. Il n'avait pas d'instruction. Il ne parlait même pas comme un prédicateur. Il parlait de serpents, de bâtons, d'arbres, de haches et des choses auxquelles il était habitué dans le désert. Il n'a pas été élevé dans une de ces grandes et belles choses grandioses qu'ils ont aujourd'hui, comme ils avaient à cette époque. Il est venu avec son propre langage. Il ne s'est pas levé pour prononcer « Amen » et faire toutes ces belles courbettes. Il est sorti directement du désert, cru et rude. Il a dit, « Ne commencez pas à penser que je fais partie de ceci et je fais partie de cela. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ne pensez pas que, parce que vous êtes méthodiste, baptiste, presbytérien, que vous vous accrochez à Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu est capable de faire sortir les contrebandiers et les prostituées de la rue et d'en faire des fils de Dieu. Quelqu'un va l'entendre et quelqu'un va le croire. Il a aussi dit, la hache est mise à la racine de l'arbre et tous les arbres qui ne croient pas sont coupés et jetés au feu. Donc, c'était son message. Il était la lumière du jour. Jésus a dit, il était une lumière éclatante qui, lui, et pendant un petit moment, vous avez désiré marcher. Et qu'est-ce que Jean a dit? Le prophète? Il est au milieu de vous en ce moment même. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. Et dès qu'il arrivera sur la scène, je vais m'éclipser. Oh là là! Car il était la lumière. Il n'y a pas deux ou trois lumières, pas quatre ou cinq organisations différentes. Il y avait une lumière. Il n'y a pas les méthodistes, les baptistes, les luthériens, les presbytériens. Christ est la lumière. Et la lumière est la vie. Et la parole manifestée est la lumière de l'heure. Que la lumière soit et la lumière fut. Oui, monsieur, que la lumière soit et voilà la lumière. Il a dit qu'il y aurait de la lumière en ce jour-ci. Et il y a de la lumière. Il vient, je le crois. Regardez les promesses de cet âge-ci. Oh là là, chaque lumière qui a jamais brillé, ces âges de l'Église, nous voyons comment ça a été un spectacle pitoyable à voir, le rejet. Apocalypse 3, que j'ai noté ici, Apocalypse 3, et je sais à quoi je faisais référence alors. Regardez la promesse de cette heure-ci, ce dans quoi nous vivons, une lumière rejetée. Qu'ont-ils fait? Ils l'ont rejeté à cette époque-là. Pourquoi? Ils vivaient dans un reflet. Que font-ils aujourd'hui? La même chose. Eh bien, êtes-vous chrétien? Je suis luthérien, je suis baptiste, je suis presbytérien. Ça ne veut absolument rien dire. Autant dire que vous êtes un porc, un cochon ou tout autre nom que vous voulez vous donner. Voyez, ça, c'est à peu près ce que ça signifie. Bon, sans vous manquer de respect, mais si vous le prenez d'un point fondamental, c'est correct. J'ai posé la question, un chrétien, c'est Christ en vous. Et si Christ est en vous, alors la parole est en vous. Et si la parole est en vous, quand la lumière brille, comment allez-vous vous en éloigner? Voyez, c'est ça la question. C'est ce qu'il y a à l'intérieur maintenant. La lumière du soir brille. L'arbre épouse fleurit. Oh, souvenez-vous, ils ont émondé ce vieil arbre. Et ce que le Gélec a laissé, le Gazam l'a dévoré. Et ce que le Gazam a laissé, le Asile l'a dévoré. Ce que les méthodistes ont laissé, les baptistes l'ont dévoré. Ce que les baptistes ont laissé, les pentecôtistes l'ont dévoré. Il a dit, cet arbre a été, Joël ici, a été coupé. Et il n'est plus qu'une souche. Mais il voulait savoir s'il allait revivre. Oh oui, il avait réservé cet arbre. Il avait réservé cet arbre. Oui, monsieur, car c'était son épouse. Et il a dit, « Je restaurerai, dit le Seigneur. » Qu'est-ce que c'est? Je restaurerai tout ce que les luthériens ont dévoré et les wesleyens ont dévoré et tout cela. Et je vais le restaurer parce que tout est encore dans la racine de l'arbre. Voyez, c'est là, dans le sol, tout comme la sève qui est descendue, comme je l'ai dit à propos de la sœur. C'est là qu'elle se trouve. Et la trompette de Dieu retentira un de ces jours. Et ces luthériens élus, méthodistes, baptistes, qui n'avaient rien à voir avec aucune organisation. Luther n'a jamais rien organisé. Moody n'a jamais rien organisé. C'est ce groupe de Ricky après lui qui a formé l'organisation, qui a opté pour la balle. John Smith n'a rien organisé. Aucun des autres ne s'est organisé. C'était la lumière de l'heure. Luther, Wesley, aucun des autres. C'était ce groupe, après eux, qui est venu, qui a formé l'organisation. Le Saint-Esprit n'a jamais rien organisé à la Pentecôte. La Pentecôte est une expérience, pas une dénomination. Elle n'a jamais rien organisé. Oh non, mais l'homme qui prétend être de la Pentecôte l'a organisé. C'est la balle, là-bas, qui meurt. Au lieu de l'imprimer sur le papier et de produire l'image complète de Jésus-Christ, non, ils se sont retirés pour qu'il n'ait rien à voir avec cela. Laissez-les faire. Mais nous voyons là que cette lumière, cet arbre, Christ, a été rejeté de nouveau par l'Église. Pourquoi? Pour la même raison qu'ils l'ont fait au début, les faux reflets des lumières d'autres époques. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8 dit qu'il l'est. Il est le même aujourd'hui qu'il était alors, parce qu'il fait la même chose qu'il avait faite, la même parole, celle que Christ... Écoutez, je veux simplement vous emmener maintenant, et que cela soit personnel. Je ne sais pas, je suis un peu décis si je dois arrêter ça maintenant ou pas. Voyez, cette bande, je vais laisser ça continuer. Voyez, je veux vous demander quelque chose. Regardez, observez ceci. Voyez, il est le même hier. Et éternellement, observez, ses œuvres qu'il a faites se manifestent. Maintenant, écoutez bien, quand il s'est tenu là, dans Jean 14-12, il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes, car je m'en vais à mon Père. » Maintenant, il l'a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne faillira jamais. » Maintenant, si nous sommes tout au bout de l'âge, quand ces grandes œuvres viendront-elles? Voyez, nous y sommes, nous n'avons pas... Écoutez, si le calendrier romain est exact, il nous reste 6, il nous reste 36 ans. Tous les 2000 ans, le monde connaît sa fin. Le premier 2000 ans, il a été détruit par l'eau. Le deuxième 2000 ans, Christ est venu. C'est l'année 1964 qui vient, 36 ans. Maintenant, le calendrier astronomique égyptien dit que nous avons une différence de 17 ans. C'est 17 ans en avance sur cela, ce qui fait qu'il resterait 19 ans. Jésus a dit, l'œuvre sera abrégée à cause des élus, sinon aucune chair ne serait sauvée. Où en sommes-nous? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, de la même sorte, mais plus grandes. Vous les ferez. Maintenant, regardez bien, écoutez attentivement, revêtez votre... Je prie que Dieu ouvre votre cœur et votre esprit à la compréhension, afin que vous compreniez sans que j'en dise trop ici. Remarquez, un jour il a dit, voyons quelques-unes des grandes œuvres qu'il a faites. Arrêtons-nous juste pour deux d'entre elles. Réfléchissons. Une fois, il a dit, « Donnez-leur à manger. » Ils ont répondu, « Nous n'avons rien. » Il a dit, « Qu'est-ce que vous avez? Apportez-moi ce que vous avez. » Et ils ont répondu, « Nous avons 5 pains d'orge et 2 poissons. » Il a dit, « Apportez-les-moi. » Et il a pris les 5 pains d'orge originaux et a commencé à les rompre. Et à partir des originaux, il a créé du pain. Cela en a nourri 5000. Pas vrai? Ensuite, il a dit, et il a pris un poisson, « Donnez-moi le poisson. » C'était un poisson au départ. Et de ce poisson, il a produit un autre poisson et un autre poisson. Et il a nourri 5000 personnes. Pas vrai? Mais dans les derniers jours, il n'avait rien. Il a simplement parlé et a dit, « Dis que ce sera là. » Et c'était là, à partir de rien. Il n'a jamais eu d'écureuil. Il n'y en avait pas là-bas. Il a simplement dit qu'il y est. Et c'était là, voyez? Oh, sa parole est infaillible. Et elle doit s'accomplir. Je pourrais vous dire des choses qui vous ébranleraient. Voyez? C'est là quand il dit que c'est là. Laissez-le le dire. Voyez? Exactement. Voyez? L'Est, l'Ouest, ici, est revenu et a rencontré l'Est. C'était Moïse qui a même ramassé du sable et a dit qu'il y ait des puces, et ainsi de suite, sur la terre. Mais en ce dernier jour, il ne prend rien, voyez, seulement la parole. Qu'il y ait, et c'est là. Ce qui est dit, c'est comme ça que ce sera. Je veux raconter certaines de ces choses ce soir, voyez, de ce qui est arrivé, afin que vous puissiez voir qu'il est toujours Dieu. Ces paroles ne peuvent pas. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. J'ai pris un poisson pour créer un poisson. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un poisson, voyez? Il est toujours Dieu, il est toujours le même Fils de Dieu qui a créé un poisson à partir d'un poisson. C'est le même Fils de Dieu aujourd'hui. Ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes. Ce sera magnifié. Vous en ferez de plus grandes. Et les gens refusent de le voir. Oui, de plus grandes œuvres. Une fausse lumière. Vous savez, je pensais justement à quelque chose. J'ai fait beaucoup allusion à l'Angleterre, mais je pensais à une fausse lumière. Ici, il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez tous du plus grand vol que l'Angleterre a jamais connu, qui a été commis. C'était un vol à main armée de 7 millions de dollars. Ne pense pas qu'il y ait déjà eu quoi que ce soit de comparable dans le monde. Un grand vol à main armée, récemment, de 7 millions de dollars. Même Scotland Yard n'arrive pas à l'élucider. Vous savez comment ils ont fait leur coup? Par une fausse lumière. Ils ont placé une lumière sur la voie ferrée, d'avertissement, jusqu'à ce qu'il arrive un feu rouge, et ils l'ont arrêté. Et c'est là que le vol a eu lieu, juste au bon endroit. Une fausse lumière a produit le plus grand vol que les nations aient jamais connu. Cela a volé les nations. Le plus grand vol à main armée, le plus grand vol a été commis par une fausse lumière. Et le plus grand vol que l'Église de Dieu ait jamais connu est une fausse lumière, un reflet, leur dénomination. Cela les a privés de la puissance du Saint-Esprit. Cela a enlevé à l'Église son moyen même de survie. Cela les a privés de la parole quand ils ont accepté un credo au lieu de la parole. Ça les a dérobés. Oh, ils prétendent avoir la parole. La parole se manifeste d'elle-même dans chaque âge. Elle se fait connaître. Ils prétendaient avoir la parole, eux aussi, là-bas, du temps de Jésus. Mais elle a dit, ils ont vu une grande lumière et ils l'ont rejetée. Ils l'ont vue, mais ils l'ont rejetée. Oh, une fausse lumière, oui, cela a coûté à l'Église le plus grand vol qu'elle ait jamais connu. Des credos froids, dénominationnels, frères, ne feront pas mûrir une parole confirmée, un grain. La Bible dit, Jésus a dit, la parole de Dieu est une semence qu'un semeur a semée. Voyez, et les credos froids ne feront pas mûrir cette parole. Non, non, les jours de blizzard froid ne feront pas mûrir le blé. Oh non, il faut la chaleur de la lumière du soleil, parce que c'était la parole parlée de Dieu pour accomplir cela. Et il faudra la parole parlée de Dieu aujourd'hui pour montrer aux saints de Dieu que Jésus-Christ vit tout comme il était hier, il l'est aujourd'hui. Les credos et les dénominations ne le feront jamais. Ils sont froids et indifférents, et le grain va pourrir dans le sol. Ça ne peut pas pousser dans de telles conditions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons ce que nous avons, comme notre précieux frère Billy Graham, le grand revivaliste. Je crois que Dieu utilise cet homme, mais regardez ce qu'il fait. Il va là-bas, parmi les baptistes et les presbytériens. Que faites-vous? Vous obtenez une bande de gens qui adhèrent à l'Église. Vous voyez où les baptistes du Sud se vantent là-bas parce qu'ils avaient plus de dénominations, où leur dénomination a pris plus d'expansion que toutes les autres dénominations protestantes. Les catholiques les ont toutes raflées, ou presque, l'année dernière. Vous l'avez lu dans le journal? Assurément. Ne vous inquiétez pas, elle va toutes les rafler parce qu'il faut qu'il y ait les baptistes et tous les autres et tout. Et ils sont tous unis. Et ne le savent pas. Le conseil de l'Église, le conseil des Églises, les considèrent tous comme la même chose. La dénomination considère. Donc, pourquoi voudriez-vous rester ici ou ici? Tant que vous rejetez ceci, quelle différence ça peut bien faire? N'utilisez-vous pas les mêmes étiquettes dénominationnelles? C'est comme si vous étiez au même endroit. L'un, la bête, et l'autre, la marque. Alors c'est ça. Donc, ça ne fait aucune différence. C'est là qu'elle est allée. Elle a apposé son sceau d'approbation, et là, vous l'avez accepté. Et elle les a tous conduits là, tout droit à la Maison Blanche, et à Washington, D.C., et au Conseil des Églises. Et voilà, les membres du clergé les ont ramenés, exactement ce que la Bible a dit qu'ils feraient. Oh là là, j'aimerais que cette horloge n'avance pas si vite. Bon, pensez un peu maintenant à où nous en sommes. Regardez les promesses pour ce jour-ci. Rejetez à nouveau ce que les églises ont fait en ce dernier jour, le reflet dénominationnel. Elle vit dans le faux reflet. C'est la raison pour laquelle elle ne mûrit pas. C'est la raison pour laquelle, cette parole, vous ne voyez pas les miracles. Un prêtre m'a interrogé il n'y a pas longtemps et il a dit, « Monsieur Branham, il a dit, comment avez-vous baptisé une certaine fille qui a quitté cette église-ci? Elle avait rétrogradé et avait épousé un garçon catholique et elle était entrée dans l'église catholique. Et il allait la faire rentrer dans l'église. J'ai dit, je l'ai baptisé du baptême chrétien. Il a dit, l'évêque veut savoir. J'ai dit, très bien, voilà. Il a dit, est-ce que vous le jurez? J'ai dit, je ne jure pas du tout. Et il a dit, oui, j'ai dit, s'il ne peut pas me croire sur parole, eh bien, ce n'est pas grave. Parce que je ne jure pas. La Bible dit, ne jurez pas par les cieux. C'est le trône de Dieu. La terre est son marchepied. Que votre oui soit oui et non, non. J'ai dit, il devra me croire sur parole. Il a dit, eh bien, vous avez dit, baptême chrétien, qu'est-ce que vous voulez dire par immersion? J'ai dit, c'est la seule façon de faire le baptême chrétien. J'ai dit, je l'ai baptisé dans la rivière Ohio, je l'ai plongé sous l'eau au nom de Jésus-Christ et je l'ai relevé. Je l'ai baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul baptême chrétien. Il a dit, oui monsieur, il l'a pris en note comme ça. Puis il a dit, c'est étrange. Il a dit, vous savez, l'Église catholique baptisait comme ça avant. J'ai dit, quand? Et il a dit, il a continué, et la discussion s'est poursuivie pendant un moment. Il a dit, eh bien, nous sommes les catholiques d'origine. Sachant que juste là étaient posés les livres, vous savez, les faits historiques là-dessus. J'ai dit, c'est vrai, mais j'ai dit, pourquoi ne le faites-vous pas aujourd'hui? Il a dit, « Nous avons le pouvoir de pardonner les péchés. » Il a dit, « Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus ?» J'ai dit, « Oui, monsieur, il l'a dit. » Il a dit, « Alors, cela ne donne-t-il pas l'autorité à l'Église ? » Pierre était à la tête de l'Église. J'ai dit, si l'Église pardonne les péchés de la façon dont Pierre l'a fait. J'ai dit, maintenant, quand il demande, que devons-nous faire pour être sauvés? Il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. J'ai dit, faites cela, et je serai d'accord avec vous. Oh, il a dit, vous essayez de plaider par la Bible. J'ai dit, c'est la parole. Il a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Tout homme, toute parole d'homme est un mensonge. La sienne est la vérité. Voyez? Donc, il n'y avait aucun moyen qu'ils puissent voir. Mais les voilà, voilà qui avancent, là, dans les ténèbres. Et les protestants, par milliers, tombent dans le panneau. Les voilà, jusqu'à adopter leur credo et ces choses-là. Ils avancent avec ça. La parole qui sort le confirme. Jésus-Christ qui se manifeste, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ce reflet de credo, ils continuent d'avancer droit dans les ténèbres. Tout comme ils l'ont fait du temps de Noé, comme ils l'ont fait dans toutes les époques. Ils le font encore aujourd'hui, directement dans les ténèbres. Pourquoi? Ils rejettent la lumière, parce que le credo les a aveuglés. Oh, quelle heure sombre dans laquelle nous sommes maintenant! Ah oui, oui, ils rejettent la vraie lumière éternelle de Christ, et c'est ça qui produit cette heure sombre. Les dénominations froides ne peuvent jamais donner vie à la parole de Dieu, car elles donnent vie à leur dénomination. Nous avons plus de chrétiens de nom en ce moment. Regardez ici, si le chrétien, j'ai demandé ceci à ce prêtre, si le, je suis d'accord avec vous, qu'au début, l'Église catholique était à la Pentecôte, pas à Nicée, Rome. L'Église n'a jamais commencé à Nicée, Rome. Elle a commencé à la Pentecôte, voyez. C'est à Jérusalem que l'Église a commencé. Mais j'ai dit, ici, j'admets que ces gens, ces esclaves et tout, qui avaient le Saint-Esprit, leurs maîtres ont vu leur puissance et ces choses, ce qu'ils faisaient. Ils ressuscitaient les morts, parlaient en langue, chassaient les démons, prédisaient des choses. Et les prophètes parmi eux, et ainsi de suite, sortaient enveloppés de peau de mouton. Ils mangeaient des herbes. Ils sont allés au concile de Nicée, et ainsi de suite. Comme ils étaient de grands hommes, ils sont sortis de là et sont allés là-bas, à ce concile de Nicée. Ils avaient pris position pour cette parole. Mais pendant ces 15 jours sanguinaires, ils ont accepté Père, Fils et Saint-Esprit comme credo, au lieu de la doctrine biblique, au nom de Jésus-Christ. C'est de là que viennent toutes les églises protestantes qui y sont nées, c'est la même chose. Toutes ces autres choses, la fausse conception du Saint-Esprit, ils ont pris, prennent la communion, boivent le vin, c'est la Sainte Eucharistie, qui signifie le Saint-Esprit. Le prêtre vous la donne. Maintenant, la Bible ne dit pas, le jour de la Pentecôte, un prêtre est arrivé sur la route, le col tourné vers l'arrière. Il a dit, tirez la langue et recevez la Sainte Eucharistie. Non, elle ne dit pas, vous tous, accourez ici me donner la main d'association. Vous les baptistes, les méthodistes et les baptistes, je vais inscrire votre nom. Apportez une lettre de quelque part. Il a dit, ils étaient tous dans le même lieu, d'un même accord. Tout à coup, il est venu du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il a rempli toute la pièce où ils étaient assis. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et là, ils s'en sont allés dans la rue, titubant comme des hommes ivres, Marie et tous les autres, sous l'effet du Saint-Esprit. Eh bien, les gens ont dit en se moquant d'eux, ils disaient, « Ces hommes sont pleins de vin doux. Qu'est-ce qu'ils étaient ?» Aveuglé par un credo, ce petit prédicateur minable, appelé Pierre, s'est levé là et il a dit, « Vous, hommes de Judée, et vous qui séjournez, vous, hommes de Jérusalem, qui séjournez en Judée, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, mais laissez-moi vous dire ce que l'Écriture dit que ce sera. Ceci est la lumière. Ceci est la parole manifestée. Amen. » La même chose se produit aujourd'hui. Ils font comme ils ont fait à cette époque-là. Ils s'éloignent et secouent la tête. Il a dit, laissez-les faire. L'aveugle conduit des aveugles. Ils tomberont tous dans une fosse. Oh, il faut Christ, la vie éternelle, pour que la parole de vie soit confirmée, faite chair. Oh là là. Il faut la parole, il faut le Saint-Esprit pour faire agir la parole de Dieu. Quand Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Maintenant, regardez, Marc 16, sa dernière commission, par tout le monde, par tout le monde. Ce n'est pas encore arrivé jusque-là, voyez, par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira dans le monde entier et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils serreront la main du prêtre? Non. Ils seront de bons membres d'église? Non. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ou s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Oh là là! Jusqu'où? À toute la création. À combien? Par tout le monde, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Voici les signes qui, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Il en fera même de plus grandes, car je m'en vais au Père. Oh! Comment pouvons-nous nous en éloigner? Ça dépasse mon entendement. Nous sommes plus dans les ténèbres maintenant que ne l'étaient. Bon, il ne me reste que quelques versets ici, puis je veux arriver à la fin aussitôt que peut. Nous sommes plus dans les ténèbres qu'il ne l'était. Je sais que je vous épuise. Ça fait 1h30, mais vous voyez, on est en train d'enregistrer cette bande-là. Voyez, ils sont plus dans les ténèbres que nous. J'ai fait cette déclaration. Pourquoi? Les églises, dans ce reflet, sont tellement séduisantes. On dirait que c'est la vérité. Bon, Jésus n'a-t-il pas dit? Voyons, dans Matthieu 24, voyez, Matthieu 24, Jésus a dit, « Dans les derniers jours, les deux esprits seront si proches que ça séduirait même les élus. » Si c'était possible. Il y aurait un groupe élu qui sortirait pour former l'Église dans les derniers jours. Et ces organisations, avec ce qu'elles appellent leur vérité, seraient si proches de la vraie chose qu'elles séduiraient même les élus, même les pentecôtistes. Maintenant, vous savez que vous ne pouvez pas prendre un pentecôtiste et le séduire avec une doctrine méthodiste ou baptiste. Vous n'allez pas lui faire avaler ça. Il sait ce qu'il en est. Vous n'allez pas non plus séduire un baptiste avec une doctrine luthérienne. Voyez, et vous n'allez pas non plus recevoir le message, séduire un message qui est maintenant dans cette parole par une doctrine pentecôtiste, un faux Père, Fils, Saint-Esprit. Et toutes ces choses comme ça qu'ils ont là, ces credos qu'ils ont dans cette organisation, pas du tout. Vous ne les séduirez jamais, car les élus ne seront pas séduits. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De la tromperie. Ces reflets, qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent l'Église au massacre du Concile par le reflet. Ce sera le massacre final, quand elle et Rome vont se réunir, quand ils vont former cette image de la bête. Ce sera le massacre final. Et ces reflets que vous avez maintenant, regardez ce qu'ils font. Ils conduisent les gens. C'est un bouc. Un bouc conduit toujours la brebis à l'abattoir. Vous avez vu ça dans les abattoirs. Ce bouc va courir jusque là-bas et conduire les brebis. Puis, il va sauter à l'extérieur et laisser les brebis continuer et entrer là. C'est ce qu'il fait. C'est toujours ce qu'il fait. Ce sont les boucs qui ont conduit Jésus, l'agneau, à l'abattoir. Les boucs romains, c'est vrai. Ce sont les boucs dénominationnels aujourd'hui qui conduisent les brebis innocentes à l'abattoir. Elles mettent elles-mêmes leur nom dans ces livres là-bas. Et elles sont fichues. C'est ça, la marque de la bête. Je parle au nom du Seigneur. J'ai retenu cela pendant longtemps. C'est vrai, c'est exactement ça. Qu'est-ce que la bête? Qu'est-ce que la bête? C'est la hiérarchie romaine, la première organisation. Quelle en est la marque? La même chose, exactement. La même chose que c'était alors, exactement. Le massacre par le reflet. Mais face aux ténèbres actuelles, nous avons quand même vu briller la lumière de Dieu. Oh, combien nous sommes reconnaissants pour cela. Écoutez attentivement. Nous avons vu la lumière, sa parole qu'il a promise pour ce jour-ci, prouvée et confirmée. C'est la vérité, la lumière de l'heure. Oh là là, je suis si heureux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien. Ici, il n'y a pas longtemps, un ministre disait qu'il était en Floride et qu'il avait une voiture. Je crois que c'était une Chevrolet. Et elle a cessé de fonctionner. Il n'arrivait pas à la réparer. Et il est allé au garage. Et un petit mécanicien vérifiait la voiture, en dessous et au-dessus, en essayant de faire quelque chose. Il n'arrivait pas à la réparer. Et il essayait ceci et ça ne fonctionnait pas. Et il essayait quelque chose d'autre, ça ne fonctionnait pas. Il a branché une génératrice, a mis ceci, il a mis des bougies, a mis des vis platinées. Il n'arrivait pas à la faire fonctionner. Il n'arrivait simplement pas à la faire fonctionner. Finalement, un homme bien vêtu s'est présenté. Il a dit, « Puis-je vous donner un conseil ?» Le petit mécanicien avait assez de bon sens pour dire, « Oui, monsieur. » Il a dit, prenez ceci et régulez ceci et ceci et... Il a dit, branchez ça ensemble une fois et essayez-la. Et il a pris ceci et régulé cela et les a branchés et l'a démarré. Le petit mécanicien s'est retourné et a dit, dites-moi, qui êtes-vous? Il était l'ingénieur en chef de General Motors. Il avait fabriqué l'engin. Il était celui qui l'avait conçu. Et aujourd'hui, quand on parle de méthodistes, de baptistes et de presbytériens, le mécanicien en chef est ici. Le concepteur de sa parole. L'homme qui a créé les cieux et la terre et qui a conçu son église. En sait-il plus sur ce qu'il faut pour l'enlèvement? Ou est-ce que c'est l'église méthodiste ou baptiste qui en sait plus sur ce qui est nécessaire? Il est le concepteur. Il sait ce qu'il faut. Il est bien revêtu de la puissance de sa résurrection. Alléluia! Il marche parmi nous aujourd'hui dans la puissance de sa résurrection. Il sait ce qu'il faut pour mettre une église en condition pour l'enlèvement. Il a conçu et a assemblé les éléments ici dans la Bible. Amen. Laissez simplement le courant passer à travers elle et regardez-la agir. Laissez la foi dans sa parole promise pour aujourd'hui couler à travers vous. Vous verrez comment elle opère. Pourquoi? Il a conçu la chose. Il a conçu son église par la parole. C'est ce qui l'assemble, non pas par l'organisation méthodiste ou baptiste ou presbytérienne ou pentecôtiste, mais par sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, monsieur, sortez de ces reflets, du milieu des ténèbres, de ce temps sombre dans lequel nous vivons en ce moment. Il ne me reste plus que 5 minutes. Du milieu des ténèbres, qui fera sortir la petite épouse? Qui s'y connaît? Le concepteur en chef. Oh oui, de toute cette confusion des reflets. Là, les méthodistes reflètent d'une manière, les baptistes d'une autre, les presbytériens d'une autre, et les pentecôtistes d'une autre. Tous ces reflets qui sont là, ils courent, mettent leur nom par ici, dans ce reflet ici, puis ils découvrent quelque chose là-bas, et viennent par ici, et quelque chose par là-bas, ils viennent par ici. Comme je l'ai dit à ce prêtre, si vous êtes tous l'église originelle, et que vous avez suivi la doctrine de ces hommes qui se sont réunis à Nicée, pourquoi n'avez-vous pas la puissance qu'ils avaient là-bas au début? Pourquoi ne faites-vous pas les choses qu'il faisait, comme Jésus l'a dit? Il a dit, « Oh, nous sommes plus nombreux maintenant. Nous vivons dans un âge différent. » J'ai dit, « Mais la parole ne change pas. » Il a dit, « Ces signes les accompagneront dans tous les âges. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. » C'est ça. Il a dit, « Eh bien, vous parlez d'une Bible. » J'ai dit, « Oui, de la parole qui est Christ. » C'est vrai. Alors, voilà. Voyez? Et dans ce reflet, les méthodistes montrent le leur, les baptistes montrent le leur, les presbytériens le leur. Chacun grandit toujours de plus en plus. La pauvre petite épouse, où en est-elle? Elle a couru ici, chez les unitaires pentecôtistes, pendant un moment. Elle y a mis son nom et elle a dit, eh bien, elle se rend compte de ce qu'ils font. Et il se présente là, et vous devez faire partie de nous. Si vous ne faites pas partie de notre église, vous ne faites même pas partie de l'épouse. Vous êtes moins que rien. Il se présente chez les assemblées, et regardez ce qu'ils ont. Vous y voilà de nouveau. Il se présente chez les baptistes. Regardez ce qu'ils ont. Regardez les presses. Qu'est-ce qui va arriver à la pauvre petite? Voyez? Mais elle est en train de sortir. Ne vous en faites pas. Elle sera là. Un type disait, ici, il y a environ 2 ans, il était au Nouveau-Mexique. J'y ai tenu une série de réunions près des cavernes de Carlsbad Caverns. Vous avez entendu parler d'elles là-bas, les grandes. Et ils ont amené un homme et sa femme et un groupe d'enfants. Ils sont allés dans cet ascenseur et sont descendus jusqu'au fond de la grotte. Et quand ils sont arrivés en bas, ils ont éteint toutes les lumières. Et quand ils ont éteint toutes les lumières, il faisait nuit noire. Je leur ai demandé de le faire dans ces jardins ici, et à un moment donné, dans le Colorado, là-bas, moi et ma femme, ici à l'arrière, nous étions là-bas, et ils ont allumé ces lumières. Oh là là, vous mettiez votre main comme ceci, vous ne pouviez rien voir. Et il y avait là une petite fille, et elle s'est mise à crier. Oh! Elle criait. Elle était morte de peur. Il faisait si noir. La pauvre petite, ça crippait partout. Elle essayait de crier. Elle appelait son papa en hurlant, sa maman, partout. Elle ne pouvait tout simplement pas le supporter. C'était si noir. Elle n'avait jamais vu une telle noirceur. Et c'est à peu près comme ça en ce moment. C'est vrai, c'est si sombre que vous ne savez pas où aller. Vous allez chez les méthodistes, chez les baptistes, chez les presbytériens, c'est la même chose partout, voyez. Ils mangent cette vieille manne morte, pourrie, avec des vermisseaux dedans. Vous voyez, la même chose, un certain credo, entrez et joignez-vous à ceci et l'autre à cela, un vieux credo et tout. On n'y trouve pas Christ, voyez. Oh, vous y trouvez des gens imbus de leur propre justice, si je peux dire. Beaucoup d'entre eux sont des gens bien là, dans ces dénominations. Je parle du système, pas des gens qui sont dedans. Mais vous voyez, c'est de quoi ils se nourrissent. Parlez-leur de cela, et voici de la nourriture fraîche. Et cette petite fille qui était là, elle criait de toutes ses forces, sur le point de devenir hystérique, à peu près comme la petite épouse. Mais vous savez quoi? Son petit frère s'est écrié. Il a dit, « Petite sœur, n'aie pas peur !» Parce qu'il était là, juste à côté de l'ingénieur. Il a dit, « Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. N'aie pas peur, petite sœur. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il peut faire vivre cette parole. Nous ne savons pas comment il vient. Nous ne savons pas comment, quand il vient. Je ne sais rien à ce sujet. Mais il est ici et il peut allumer les lumières. Comment allons-nous nous en sortir? Je ne sais pas. Mais il est ici et c'est lui qui peut allumer les lumières. Oui, monsieur, il est celui-là, il est la lumière. Il se fait simplement connaître. C'est comme ça qu'il allume la lumière. C'est exactement ça. Il faut Christ pour faire briller ses lumières. Alors toutes les ténèbres se dispersent. Il sépare, il fait sortir sa petite épouse. Je choisirai un peuple parmi les gens des nations à cause de mon nom, qui porteront mon nom. Quel est son nom? Très bien, pas méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien, c'est Jésus-Christ, c'est vrai. Il est la lumière, la vérité, la lumière, et il n'y a pas de ténèbres en lui. Et il disperse les ténèbres quand il entre, parce qu'il est la parole est la lumière. C'est vrai, parce qu'il a parlé et a dit que la lumière soit. C'était la parole qui était devenue lumière. Quand il prononce ceci, c'est la lumière de l'âge en question, chaque fois. Maintenant, il est ici, dans, pas dans un reflet, mais les gens vivent dans un reflet. Mais il est la parole confirmée. Il est absolument là, la lumière dans un temps de ténèbres. Oui, monsieur. Tous ces faux reflets et ces choses vont disparaître. Oui, monsieur, il est ici. N'ayez pas peur. Allumez les lumières. Sa parole promise. Elle vit, elle fait. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alors, c'est la parole. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé est venu en lui. Le Jésus qui vous envoie vient en vous. Et les œuvres qu'il a faites à ce moment-là, il les fait encore. Parce que, pourquoi? La parole est faite chair, dans la chair humaine. Elle se manifeste. Elle est la lumière du jour. Voilà. Voilà, c'est ça. Cela montre simplement le chemin vers la lumière, dans la lumière. Les hommes sages, qui ne sont pas aveuglés par des credos et des dénominations, marcheront dans cette lumière. Oh là là, il y a un homme ici qui peut allumer les lumières. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il confirme sa parole pour ce jour-ci. Jésus, le Fils de Dieu, qui a promis la parole pour ce jour-ci, est ici même avec nous. N'ayez pas peur. Ne prêtez aucune attention à ce qu'ils font. Si vous le faites, vous allez marcher dans les ténèbres. Soyez sages. Ceux qui agissent sagement, Daniel a dit, dans ces derniers jours, feront des exploits pour leur Dieu. Voyez, voyez, ils marcheront dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Ne vous inquiétez pas, il fait peut-être sombre. On dirait qu'ils vont nous forcer, chacun de nous. Toutes ces, vous voyez là, leurs proclamations, toutes ces petites églises, et tout, doivent entrer maintenant. Vous devez entrer, ou ils fermeront vos portes. Ils vont le faire. Maintenant, nous voulons frapper très fort sur cela, ce soir, quand je vais en arriver là, voyez. Bon, ils disent, nous allons fermer vos portes. Vous devez être l'un d'entre eux, ou non. Vous êtes soit avec eux, ou vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez même plus acheter ni vendre. C'est ça. Gardez-vous bien de prier pour les malades. Si on vous prend en train de parler à un malade ou à une personne de choses spirituelles, vous serez soumis à une loi fédérale pour être exécuté. C'est tout à fait vrai, voyez. Vous savez ça, c'est vrai. C'est dans leurs journaux. Oui, monsieur. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez appartenir à la secte. Frère, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous feriez mieux d'être sûr d'avoir Christ dans votre cœur dès maintenant, car un temps vient où vous en aurez vraiment besoin. Vous serez exclu. Alors, souvenez-vous, quand ce sceau est appliqué, il est là pour de bon. Voyez? Alors, ne le faites surtout pas. N'allez pas croire ce genre de choses. Entrez directement en Christ tout de suite, la parole. Oui, monsieur, il confirme la parole et montre qu'elle est la lumière de l'heure. C'est ainsi que nous savons qu'il est la lumière, parce qu'il est la lumière qui se manifeste dans la chair. Comment le savons-nous? Il était la parole de Dieu faite chair. Voyez, la parole de Dieu se manifestait, le confirmait. Quand le Messie viendra, ce qu'il fera. La femme au puits a dit, « Quand le Messie viendra, il fera ces choses. Tu dois être le prophète, qui est la parole, qui nous prédit ces choses. » Il a dit, « Je le suis. » Voyez, c'était suffisant. La lumière a brillé sur la parole promise. Voici la lumière. Elle s'en est allée tout de suite dans la ville. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie ?» C'était réglé, voyez. Peu importe ce que les autres disaient, elle savait que c'était le Messie. Souvenez-vous, dans chaque âge, dans les périodes de ténèbres, Dieu s'est toujours servi de sa parole pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il l'a fait au temps de Luther, lorsque l'Église catholique possédait tout. Il a envoyé Luther comme une lumière qui a brillé. Et Luther a séparé la vérité des ténèbres. Et lorsque les luthériens se sont embrouillés, il a produit un John Wesley. Et celui-ci a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Puis, au temps de la Pentecôte, quand les Wesleyens se sont, et les méthodistes se sont mis dans le pétrin, ainsi que les baptistes et les presbytériens, il a envoyé le message pentecôtiste pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Les gens de la Pentecôte sont retournés tout droit aux ténèbres, comme ça, dans leur organisation. Ils ont pris leur credo et tout. Maintenant, l'heure est venue où cette parole-ci doit être confirmée. Il envoie la lumière, la parole manifestée, comme il l'avait fait au commencement. Il envoie la parole et elle se démontre d'elle-même. La lumière est là. Et il sépare toujours. C'est la même chose maintenant pour les petites lumières éternelles du commencement. Écoutez, les enfants, comme je l'ai dit, j'ai dépassé mon temps de 5 minutes, mais laissez-moi dire cette dernière chose. Il y a ici un homme. N'ayez pas peur, peu importe ce qu'ils disent. J'ai vu des choses arriver au point où je ne savais plus quoi faire. Mais il est toujours là. La présence infaillible, il est toujours là. Il peut allumer la lumière. Oui, monsieur, il attend simplement de voir ce que vous allez faire. Il peut appuyer sur l'interrupteur quand il le veut. Oui, monsieur, il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Ceux qui étaient dans les régions de l'ombre de la mort, certains sous l'emprise du cancer, certains sous l'emprise des dénominations mortes, certains sous l'emprise des credos morts, certains sous l'emprise des traditions mortes, et toutes ces sortes de morts, et ils ont vu une grande lumière. L'homme qui a fait briller les lumières en ce temps-là est le même qui a dit au commencement « Que la lumière soit !» Ce même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, il est présent aujourd'hui, ici même, maintenant. N'ayez pas peur, il peut allumer les lumières. Quand la persécution viendra, n'ayez pas peur, il y a une lumière. Il a dit qu'il enlèverait les siens. Elle ne passera pas par la tribulation. Elle ne le fera jamais. Il a dit qu'elle ne le fera pas. Elle sera enlevée. Comment vont-ils le faire, frère Branham? C'est terriblement sombre. Peu importe à quel point ça devient sombre, que vous ne puissiez pas voir votre main devant vous, rappelez-vous simplement qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il prendra cette église dans l'enlèvement. Vous dites, eh bien, je suis... Oui, Shadrach, Meshach et Abednego sont allés jusque dans la fournaise ardente. Mais il y avait là un homme qui pouvait faire circuler l'air. Oui, monsieur, ce vent impétueux qui est descendu le jour de la Pentecôte, il a de nouveau agi et soufflé toute la brise loin d'eux, tout le feu. Il y avait là un homme, on l'appelle le quatrième homme. Il y en a un, ici aujourd'hui, il est le seul, alléluia. Il a l'interrupteur de la lumière à la main. Ceux qui vivaient dans les régions de l'ombre de la mort ont vu une grande lumière se lever. Ne la rejetez pas, recevez-la dans le nom du Seigneur, pendant que nous courbons la tête un moment.
Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world.
Qu'est-ce? La parole confirmée est Jésus aujourd'hui. Il est la parole. Avec la tête inclinée, je me demande combien ici aimeraient marcher dans cette lumière, sous la conduite du Saint-Esprit, la parole confirmée d'aujourd'hui. Voyez, la parole que Dieu a promise pour aujourd'hui, vous la voyez manifestée. N'était-ce pas ce qu'il était au commencement? Il était la parole. Le Fils est né. Il était la parole. Il était le Messie. Il était la parole confirmée. Alors donc, la parole, Dieu a prononcé le comme la fin dès le commencement. Maintenant, il y a une parole pour ce jour-ci, et il est ici confirmant cette parole, au milieu de la confusion, des ténèbres et des reflets. Cela lui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas cela. Ça ne correspond pas à cela. Le credo, Jésus a dit, « Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, par qui les chassez-vous ? » Ils ne les ont pas chassés, voyez. Mais non, si je chasse un démon par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oh, réfléchissons à ça alors que nous levons la main, doucement maintenant, et réfléchissez tranquillement.
This is such a beautiful light, and it comes where the dewdrops are.
Faites votre confession. Croyez Dieu maintenant.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Oh, we walk in this light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. A Jesus, light of the world.
Pendant qu'il continue à jouer, je veux vous demander, dans chaque âge, c'était pareil. À l'époque de Noé, ceux qui ont rejeté la lumière, qu'ont-ils fait? Ils sont allés dans le jugement de Dieu. Qu'est-il arrivé à Pharaon à l'époque de la lumière du buisson ardent? Qu'était en Moïse? Il s'est avancé dans la mer de la mort. Qu'est-il arrivé à Dathan qui avait commencé et ensuite a rejeté la lumière? Il s'est retrouvé dans la fissure de la terre qui l'a englouti. Qu'est-il arrivé dans tous les âges à ceux qui ont failli de marcher dans la lumière du jour? C'est Jésus tout au long. C'était Jésus du temps de ces hommes. C'est Jésus aujourd'hui, car il est la parole. Et la parole produit la lumière. C'est la lumière du jour. Réfléchissez-y maintenant, tout doucement, Pendant que nous, avec sincérité, posez-vous la question, marchez-vous dans la lumière pendant que nous le fredonnons de nouveau? Levons-nous maintenant. Je prie le Père Céleste de laisser ce message pénétrer profondément dans le cœur des gens qui sont présents et de ceux qui l'entendront par le moyen des bandes. Et puisse la lumière venir sur la parole, la semence, et faire sortir chaque semence prédestinée qui a été plantée ici dans ces différents reflets et organisations. Puissent-ils voir comme Nicodème, même s'ils doivent venir de nuit, venir à la lumière, accorde-le Père. Puisse ce grand enjeu se produire, ce rocher qui s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Il détruira ces royaumes des gens des nations, tous ces royaumes, les royaumes spirituels et les royaumes naturels. Et le rocher couvrira toute la terre. Ce sera une purification. Ceux que ce rocher écrasera seront réduits en poudre. Ceux qui tomberont sur ce rocher auront un fondement solide. Ô Christ, laisse-moi, en tant que ton serviteur, mourir sur ce rocher de ta parole. Seigneur Dieu, laisse-moi prendre position, comme David et ses guerriers d'autrefois qui ont pris position pour David. Laisse-moi prendre position pour cette parole aujourd'hui, alors que je vois qu'elle est rejetée par les dénominations. Elle se trouve ici, dans un petit refuge quelque part. Ô Dieu, accorde-nous d'avoir la force et le courage et le Saint-Esprit de prendre position, car les heures deviennent de plus en plus sombres. Permets que nous nous souvenions toujours que tu es toujours là pour allumer la lumière. À l'heure que tu veux, tu peux allumer la lumière, Père. Ainsi, nous prions, comme tu l'as dit, vous êtes la lumière du monde. Accorde, Seigneur, que nos lumières qui sont à ton service brillent si clairement devant les autres qu'ils verront la lumière de l'Évangile alors que nous la vivons, Seigneur, jour après jour. Reflétons devant eux la vie de Jésus-Christ, comme quand il était ici sur terre, rempli d'humilité et de douceur, portant la parole vivant à travers lui. Accorde-le, Seigneur, car nous nous tournons vers toi, celui qui est grand avec l'interrupteur à la main. Tu tiens le monde dans ta main. Tu tiens toutes choses dans ta main et tu soutiens le monde par ta parole. Ô Père, permets que nous recevions la parole. Pourrais-tu, s'il te plaît, Seigneur, permets que cela soit le témoignage et le désir de chaque cœur ici présent. Père, alors que nous chantons ces hymnes, comme David a chanté ces hymnes, ils sont devenus des prophéties. C'était des prophéties, et tu les as reconnues comme étant des prophéties. Alors que nous le chantons, Seigneur, que ce soit dans notre cœur aussi, alors que nous chantons, oui, nous marcherons dans la lumière. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. C'est une lumière si belle, c'est la parole, c'est Christ vivant parmi nous, pas ce qu'il était, c'est ce qu'il est. Et nous savons que ce qu'il était n'était que le reflet de ce qu'il est. Et nous prions, Père, que les gens comprennent et marchent dans cette lumière si belle. Nous le demandons au nom de Jésus. Pendant que nous restons debout un instant, je veux que nous chantions tous. Bon, il y a ici des presbytériens, des méthodistes, des catholiques. C'est un auditoire mixte pour ce qui est des dénominations. Maintenant, souvenez-vous que l'on sache que je ne dis rien contre les gens qui sont dans ces reflets, mais j'ai démontré par la Bible qu'elles sont des reflets. Si ce n'était pas le cas, Christ ferait ce qu'il a promis de faire avec eux. Voyez, mais ils refusent cela, voyez. Et quand vous en arrivez là, qu'est-ce que vous trouvez? C'est adhérer à l'Église, réciter un credo. Et qu'est-ce que ça donne? En arrivant au bout du chemin, vous découvrez que c'était un faux mirage. Christ est la parole, il est la lumière. Vivez maintenant, pendant que vous pouvez vivre. Vous vivez pour quelque chose. Pourquoi vivez-vous? afin de pouvoir mourir. Chacun de vous, pourquoi travaillez-vous? Pour manger. Pourquoi mangez-vous? Pour vivre. Pourquoi vivez-vous? Pour mourir. Alors, pourquoi ne pas vivre pour vivre? Pourquoi ne pas vivre pour vivre? Alors, la seule façon que vous pouvez vivre est d'accepter la parole, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, ce que nous faisons ici, à la sueur de notre front, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, la parole de la bouche de Dieu est confirmée ici même devant nous par le Saint-Esprit. Vivez par elle. Ne le voulez-vous pas? Maintenant, je veux, pendant que nous chantons ceci de nouveau, que chacun reste à sa place, étende le bras pour serrer la main de quelqu'un et dise, « Frère, marchons dans cette lumière. Pendant que nous chantons, nous marcherons dans la lumière. » D'accord? Priez les uns pour les autres, alors que vous joignez vos mains, pendant que nous le chantons ensemble, en gardant les yeux fermés, dans la mesure du possible.
Such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night.
Yes!
Jesus, the light of the world.
Maintenant, levons les mains. Qu'est-ce que c'est? Tous, chantons-le maintenant. Avec la tête inclinée maintenant. Rappelez-vous quand Israël était en chemin. Mangeons de la manne neuve chaque jour. Ils marchaient dans la lumière d'une colonne de feu. Cette colonne de feu était Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle l'était. Et aujourd'hui, il est avec nous. Nous l'avons. Nous savons qu'il est avec nous. La même colonne de feu qui fait les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était ici sur la terre pour accomplir sa parole. Alors que nous partons d'ici, souvenons-nous, gardons ce chant dans notre cœur, alors que nous rentrons à la maison, comme les roues fredonnent un chant. Avant de manger votre dîner, courbez la tête et remerciez Dieu d'avoir envoyé la lumière pour produire de la nourriture sur la terre, pour votre corps physique. Puis remerciez Dieu d'avoir envoyé la lumière spirituelle, sa parole, afin qu'il puisse donner de la nourriture pour votre âme. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Continuez simplement à chanter cet hymne en vous-même, dans votre maison, parmi les vôtres, et rencontrons-nous ici vers 18h30, ce soir, pour les cartes de prière et tout. Nous vous verrons à ce moment-là. En attendant, courbez la tête. Je vais demander à Frère Neville s'il veut monter ici maintenant. Le pasteur est terminé par un mot de prière.